Vous êtes sur RTL.
Équipe de nos petits matins. Le président de la République a-t-il, oui ou non, entrouvert la porte d'un assouplissement du pass sanitaire? Une phrase sème le doute ce matin et nécessite d'être éclaircie. C'était hier, lors du déplacement en Indre-et-Loire du chef de l'État. Réponse et explication à 8h20 avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui sera notre invité dans ce studio. Tout cela dans un contexte de baisse continue des contaminations et alors que la France approche les 50 millions de vaccinés. L'autre grand rendez-vous d'RTL ce matin est celui que nous avons avec un fils chéri, mais très critiqué, le fils du président. Le président américain Hunter Biden donne sa première interview en France à Alba Ventura sur RTL. L'homme d'affaires s'explique sur sa vie privée agitée, son addiction aux drogues, mais il évoque aussi la politique de son père à l'occasion de la parution de son livre « Les belles choses » aux éditions Albin Michel. Rendez-vous donc à 7h40 avec Alba Ventura. Et puis juste avant, c'est François Langlais qui nous expliquera comment le groupe Danone va devoir affronter la crise de l'eau minérale et surtout de ses bouteilles en plastique. Presque 5 milliards de son chiffre d'affaires. Nous sommes le jeudi 16 septembre 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
L'optimisme affiché d'Emmanuel Macron dans la guerre face au Covid.
Peut-être un allègement du pass sanitaire d'ici la fin de l'année, vous le disiez effectivement. C'est ce qu'il a laissé entendre hier au cours d'un déplacement. On fait le point dans un instant avec Vincent Derosier et on posera évidemment la question au ministre de la Santé, Olivier Véran, qui sera l'invité d'RTL tout à l'heure à 8h20. Touché coulé, l'Australie annule le contrat du siècle. La France devait fabriquer et livrer 12 sous-marins pour plusieurs dizaines de milliards d'euros. On verra comment les Américains nous ont torpillés. Dans ce journal, comment un célèbre avocat américain a commandité son propre meurtre pour que son fils puisse toucher les 10 millions de dollars d'assurance vie. Et puis le trio Messi, Neymar, Mbappé qui n'a pas fait d'étincelle hier soir. Match nul, un partout face à Bruges.
La politique, Olivier Bosse.
Et demain, on rase gratis avec le quoi qu'il en coûte électoral.
On retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Est-ce enfin le bout du tunnel qu'on commence vraiment maintenant à percevoir? Les contaminations Covid baissent de 30% par semaine depuis un mois. On était hier à moins de 10 000 cas recensés et la vaccination massive a permis d'éviter la saturation des hôpitaux. Dans ce contexte, cette petite phrase d'Emmanuel Macron en déplacement hier en Eure-et-Loire n'est pas passée inaperçue.
Il y a des départements où on va être amené de toute façon à alléger un peu les contraintes en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc on va faire ça comme d'habitude avec pragmatisme.
On entend cet échange. En l'occurrence, le président répondait à une femme enceinte non vaccinée qui lui demandait si elle pouvait espérer que le pass sanitaire soit allégé au moment de son accouchement le 13 décembre. Ça veut dire finalement un horizon assez proche, Vincent Derosier.
Oui, c'est vrai. Le président a bien laissé entendre hier que les contraintes pourraient être allégées avant la fin de l'année. Alors à l'Élysée, on rappelle que les critères sont toujours les mêmes. Le taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations. Si on se fie à ces indicateurs, 14 départements pourraient être concernés. Le Calvados, l'Orne, la Mayenne, la Saône-et-Loire, l'Aisne ou encore la Nièvre. Mais quels allègements de contraintes? C'est toute la question. Cela pourrait concerner le pass sanitaire, car le président répondait bien à une question sur ce sujet. Un conseiller évoque aussi la fin du masque en extérieur dans les centres-villes très fréquentés ou sur les marchés. Mais hier soir, l'Élysée a préféré calmer le jeu. Emmanuel Macron a exprimé une philosophie déjà connue, confie un conseiller, qui rappelle que tout sera tranché dans les prochains conseils de défense sanitaire à l'Élysée.
Merci beaucoup Vincent Derosier. Encore beaucoup d'incertitudes et donc un besoin de précision. Ça tombe bien. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est votre invité, Yves, tout à l'heure à 8h20. RTL vous le révélait dès hier soir. Près de 6 millions de ménages vont toucher un chèque de 100 euros pour les aider à payer les factures énergétiques pour compenser l'augmentation par exemple des prix du gaz. Ce sont les Français qui touchent déjà le chèque énergie qui vont avoir cette rallonge. Aucune démarche à faire, le chèque arrivera par courrier dans le courant du mois de décembre.
On en vient maintenant à cette très mauvaise nouvelle, ce camouflet pour l'industrie militaire française et l'entreprise Naval Group.
Oui, c'est un énorme contrat que vient de perdre la France. Écoutez d'ailleurs ce que vous disiez Yves, sur cette antenne, sur RTL en avril 2016, au moment de l'annonce de ce contrat record.
C'est donc un véritable méga contrat dont il est question ce matin.
34 milliards d'euros pour la construction de 12 sous-marins. Le groupe français des CNS a remporté l'appel d'offres lancé par l'Australie.
Eh bien, 5 ans plus tard, tout est annulé. L'Australie torpille le contrat. Le Premier ministre du pays en a fait l'annonce hier. Bonjour Karine Hauten.
Bonjour.
Et ce sont les Américains qui nous ont doublés dans cette affaire.
tous les coups ont dû être permis pour que les États-Unis soufflent ce contrat à la France, déprécier sans doute la technologie bleu-blanc-rouge, proposer des sous-marins nucléaires alors que l'Australie n'en avait jamais encore possédé, et partager son savoir-faire dans le nucléaire pour contourner les traités de non-prolifération. Tout cela a dû sembler très alléchant à Canberra. Washington s'assure ainsi, elle, un allié reconnaissant dans la région qui aura les moyens de sillonner plus loin cette zone indo-pacifique et garder en joue une Chine de plus en plus menaçante.
Merci Karine Auton, correspondante aux États-Unis pour RTL. La France condamne ce matin une décision regrettable. Notez-le, à 7h40, Hunter Biden, fils du président des États-Unis Joe Biden, sera l'invité d'Alba Ventura. Il se confie dans un livre, Les belles choses, sur ses addictions, sur ses drames familiaux. Il parle également de ses relations avec Donald Trump. Il avait été l'objet, le fils de Joe Biden, de multiples attaques de la part de Trump lors de la campagne présidentielle américaine.
Il est 7h04, on en vient à cet appel à la vigilance sur les côtes méditerranéennes.
Oui, 9 personnes sont mortes, noyées hier entre l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Même si les orages se sont calmés, la mer reste très dangereuse. Il est à nouveau d'ailleurs déconseillé de se baigner aujourd'hui. Écoutez le lieutenant-colonel Aurélien Maninck, commandant des opérations des pompiers de l'Hérault.
Les conditions météorologiques du moment sont très particulières. Nous avons à la fois un épisode avec des températures très douces dans l'air qui font aussi que la mer est également très chaude puisque on constate des températures de 23-24 degrés par endroit. Les vagues peuvent paraître très ludiques. Sauf qu'en réalité, il y a des courants sous-marins qui se forment à proximité de la côte qu'on ne voit pas. Et les gens ont tendance à aller dans l'eau pour s'amuser avec les vagues, mais sont entraînés ou vers le fond ou vers le large à cause de ces courants marins qui font que la côte est très dangereuse en ce moment. Donc on incite les personnes à ne surtout pas aller se baigner. Dans l'inconscient collectif, la Méditerranée n'est pas dangereuse comme l'océan Atlantique. On ne s'imagine pas qu'on peut également être emporté par les flots également.
Aurélien Maninck, commandant des pompiers de l'Hérault, il répondait à Patrick Tégéraud.
On rappelle ce bilan, hein, 9 morts hier dans cette région. Une pause et dans un instant, cette histoire hallucinante, comment un avocat américain a commandité son propre meurtre pour que son fils touche l'assurance. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 7h07 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. L'audience a été très éprouvante hier au procès du 13 novembre.
Oui, les victimes ont été choquées, bouleversées d'entendre le cynisme de Salah Abdeslam qui a assumé les attentats. Il n'y avait rien de personnel, a-t-il osé dire à l'audience en répétant que les attaques étaient une réponse au bombardement français en Syrie. Et puis autre moment glaçant, la diffusion sur le grand écran de la salle d'audience des images d'Abdelhamid Abaoud, l'organisateur des attentats, tout sourire dans le métro parisien juste après avoir mitraillé les terrasses. Compte rendu d'audience, Dan Le Hénaff.
C'est un film aussi court que sidérant, extrait de la vidéosurveillance du métro. Il est 22h14, Abdelhamid Abaoud et Chaki Bagrou ont abandonné leur voiture et passent le tourniquet en fraudant à la station Croix de Chavaux. Ils ont du mal à se faufiler, ils en plaisantent, même avec un autre voyageur qui leur montre comment faire. L'enquêteur à la barre s'étonne presque. Ils viennent de tuer plus de 30 personnes. Ils ne sont prodigieusement pas stressé. La personne qui parle avec eux ne se rend pas compte qu'ils viennent de commettre un attentat. Abdelhamid Abaoud, tout sourire, sera identifié grâce à sa paire de baskets orange, une image qui a marqué plusieurs témoins dans l'horreur des massacres des terrasses.
Merci Anne Le Hénaff. En bref, les forces françaises au Sahel ont tué le chef du groupe État islamique au Grand Sahara. C'est le président de la République qui l'annonce, qualifiant l'opération de succès majeur pour la force Barkhane face au terrorisme.
On en vient à cette histoire digne d'un mauvais polar, comment un avocat américain a tenté de commanditer son propre assassinat.
Oui, il avait engagé pour cela l'un de ses anciens clients. Il voulait que son fils puisse toucher l'assurance vie. 10 millions de dollars, Vincent Serrano.
Il lui fournit même l'arme à utiliser pour l'assassiner. Sauf que le 4 septembre dernier, rien ne se passe comme prévu. Alex Murtoff s'arrête bien le long de la route, fait mine de changer sa roue le long d'une route de campagne. Une voiture s'avance. Le coup de feu part, il s'effondre. Le complice pense avoir réussi son coup, jette l'arme et s'en va. L'avocat n'est pas mort, mais blessé à la tête, emmené à l'hôpital. Et comme c'est l'un des avocats les plus puissants de Caroline du Sud, les enquêteurs travaillent bien et vite. Et l'homme de loi avoue, il a demandé à son ancien dealer d'opiacés de 61 ans de lui tirer une balle dans la tête, ce qui, en cas de décès, aurait permis à son fils aîné de toucher 10 millions de dollars d'assurance vie. Ce qui intrigue Outre-Atlantique, c'est que le 7 juin dernier, le Benjamin et la mère Murdoff sont assassinés devant le domicile familial. Personne n'est arrêté. Aucune piste. Les policiers ne sont peut-être pas au bout de leur surprise concernant le dossier Murdoch.
Histoire assez glaçante. Merci beaucoup Vincent Serrano.
Allez, le football maintenant. Le Paris Saint-Germain a été décevant pour ses débuts en Ligue des Champions.
Oui, un match nul un partout. Poussif face à Bruges. Des Parisiens qui ont été dominés. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
Et vous étiez au stade évidemment hier soir. Et la grande déception, c'est le trio magique Messi, Neymar, Mbappé qui n'a pas fait d'étincelle hier soir, loin de là.
Non, 50 minutes passées sur la pelouse jusqu'à la sortie de Kylian Mbappé, touché au pied. Examen à venir d'ailleurs les prochaines heures. 50 minutes pour un trident incapable de piquer l'adversaire. 19 passes échangées entre eux. Une barre transversale trouvée par Messi, mais surtout des stars parisiennes qui se marchent sur les crampons. Un travail défensif inexistant qui handicape l'ensemble. Cette équipe n'en est pas une pour le moment. Presnel Kimpembe au micro de nos confrères de Canal+.
On est tombé face à une belle équipe de Bruges, faut savoir aussi le reconnaître, même si on n'a pas joué notre meilleur football. On sait que sur papier on a l'équipe qu'il faut, mais après faut le démontrer aussi sur le terrain. On va pouvoir récupérer et bien préparer les matchs suivants pour pouvoir bien aborder le match face à City.
Il nous faut du temps, répète Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien. Il faudra surtout faire vite. Manchester City, dans 12 jours, la réception des Anglais prend un relief différent désormais dans l'optique de décrocher la première place du groupe.
Merci Nicolas Georgerot, d'autant que Manchester City n'a pas fait dans la dentelle hier puisqu'ils ont battu Leipzig 6-3 et qu'ils sont effectivement premiers de leur groupe. Parmi les autres résultats de la soirée, Liverpool a battu l'AC Milan 3-2 et le Real Madrid est allé battre l'Inter Milan 1-0. C'est le français Camavinga d'ailleurs, transféré de Rennes cet été, qui a fait, figurez-vous, la passe décisive.
On termine avec les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Longchamp.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 16, le 6, le 8, le 13, le 3 et le 4. La dernière minute étant le 8, électron libre.
Et le journal de 7h vous a été proposé par Olivier Bois. Il est 7h11. Bonjour Olivier Bost.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous parlez ce matin du quoi qu'il en coûte électoral qui ne fait que commencer, Olivier.
Oui, en ce moment, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il sort de l'Élysée, lâche des centaines de millions d'euros. S'étrangle un député de la commission des finances. Et cette ambiance d'euphorie touche la campagne préélectorale et tous les prétendants à l'Élysée. Anne Hidalgo promet 100 milliards pour augmenter les profs. Les Républicains proposent un programme avec des dépenses en hausse. Marine Le Pen a dans ses cartons un chèque de 100 000 euros pour chaque couple qui fait des enfants.
Donc c'est du grand n'importe quoi.
Bah oui, et puis dans cette ambiance, la Cour des comptes, jusque-là plutôt sympa avec le gouvernement, change de ton. Son président, Pierre Moscovici, l'a dit hier à l'Assemblée nationale, je vous le résume, le soutien de l'économie pendant la crise a été bien fait. La relance, c'est bien aussi. Mais attention, ça dérape sur les dépenses ordinaires. Et ça, ça n'a rien à voir avec la crise. Non. L'éducation, la sécurité, la justice, l'hôpital, l'armée, tous les effectifs et les salaires sont en hausse. Et nous ne connaissons pas encore les montants du plan jeune ou du prochain plan d'investissement France 2030. Et tout ça, même si c'est très bien et indispensable, eh bien, ça restera une fois la crise passée. Le budget de l'État, hors Covid, est déjà alourdi de 14 milliards d'euros de plus tous les ans. Et pour l'instant, il n'y a aucune économie en face de ces nouvelles dépenses.
Mais attendez, vous n'avez pas encore le budget 2022 ?
Eh oui, vous avez raison. Il sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine et il sera scruté de près par les obsédés de la dette.
Bah oui.
En 2017, le dernier budget de François Hollande avait été jugé insincère. Il n'y a pas plus infamant pour un gouvernement. Oui. La prochaine, l'optimisme, la croissance et les miracles ne vont pas suffire pour nous ramener dans le droit chemin.
Bah, vous voulez dire que le réveil sera tout simplement difficile.
Eh oui, passer l'euphorie de la campagne au lendemain de la présidentielle, il y a un gros risque de mal de crâne. Comme il est hors de question d'augmenter les impôts, il faudra bien trouver des économies à faire sans casser la reprise économique. Oui, il faudra faire des choix, explique une source à Bercy. D'autant plus, nous a expliqué un responsable de la majorité, qu'il y a des craintes de voir la note de la France dégradée. Cela devrait empêcher le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, de dormir, en plaisante même cette source. Une baisse de la note de la France, cela veut dire qu'emprunter pourrait commencer à nous coûter de l'argent. C'est ce qui avait plombé Nicolas Sarkozy avant la présidentielle de 2012.
Merci beaucoup Olivier Bost, on vous retrouve sur le site rtl.fr. 8h20, Olivier Véran, ministre de la Santé, sera donc en studio au lendemain de l'obligation vaccinale. Et alors que la France approche les 50 millions de primo-vaccinés, on lui demandera bien entendu aussi de nous expliquer les derniers propos qui soulèvent beaucoup de questions du chef de l'État. Et puis à 7h40, invité exceptionnel avec Alba Ventura, Hunter Biden, le fils du président américain, qui sera notre invité. Il reviendra notamment sur les attaques contre son père pendant la campagne électorale, mais aussi le retrait d'Afghanistan.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h14, notre brigade RTL avec Sophie Orange. Nouveau succès pour le cœur artificiel français de la société Carmat. 6 malades ont été implantés en Italie et en Allemagne. Nous allons faire un point sur les enjeux, sur le nombre de patients qui pourraient être greffés en France grâce à vous Sophie. Bonjour.
Bonjour à tous.
Ce n'est pas la première fois que des patients reçoivent ce cœur artificiel. Qu'est-ce qui change cette fois-ci ?
En fait, les hôpitaux ont acheté ce cœur à Carmat entre 150 et 200 000 euros la prothèse. Ce ne sont donc plus des essais cliniques, mais bien une phase commercial. Pour la première fois, donc, l'entreprise française a généré du chiffre d'affaires, en l'occurrence 2 millions d'euros.
Il ressemble à quoi ce cœur ?
Petite merveille de technologie qui pèse 830 grammes contre 300 grammes pour le vrai cœur, si j'ose dire. Ce cœur artificiel est destiné à des malades qui souffrent d'insuffisance cardiaque gravissime, pour qui la greffe de cœur est la dernière chance. Sauf que, vous le savez, on manque de donneurs et de greffons. Le cœur artificiel est donc posé pour attendre une transplantation, avec une batterie de 3 kilos à porter dans un petit sac à dos. Le record, un malade a vécu avec 25 mois, sachant qu'en plus, il est mort d'autre chose.
On est d'accord, Carmat, c'est une réussite française.
Oui, grâce à l'énergie, l'audace, le rêve d'un grand chirurgien français dans les années 1990. Carmat a été formellement créé en 2008. Première implantation d'un cœur en 2013 en France, dans le cadre d'un essai clinique. Marquage CE obtenu en décembre 2020. C'est le feu vert indispensable pour la commercialisation. Ce cœur artificiel est fabriqué au sud de Paris. Carmat compte aujourd'hui 200 salariés.
Aucun hôpital français n'a encore acheté ce cœur ?
Pas encore. Les autorités réglementaires attendent le résultat d'une nouvelle étude qui va démarrer dans les prochains mois. Se posera ensuite, bien sûr, l'épineuse question du remboursement.
Combien de malades pourraient en bénéficier ?
Alors, en France, moins de 500 malades du cœur sont transplantés chaque année, mais des milliers, sans doute 10 000, ne le sont pas, faute de donneurs. Le marché du cœur artificiel est donc énorme. Dans une, deux, trois générations, on ne sera plus là. Ouais. Cela deviendra peut-être la routine.
Merci beaucoup, Sophie Orange. Dans un instant, reportage sur le mal-être au sein de l'éducation nationale. Le nombre de démissions des professeurs a été multiplié par 4 en 10 ans. Marie Guerrier est allé à la rencontre de ceux qui jettent l'éponge. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. Yves Calvi, RTL Matin.
Le métier d'enseignant ne fait plus rêver, il n'est plus assez attractif. On le sait, l'éducation nationale n'arrive pas à recruter suffisamment de profs, mais on parle moins des enseignants qui, eux, démissionnent. C'est l'enquête ce matin d'RTL. Ces profs de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
En 10 ans, le nombre de démissions a tout simplement été multiplié par 4.
2 profs sur 1000 démissionnent, alors dans l'absolu c'est peu, mais c'est la hausse permanente qui pose question. On est passé de 364 démissions en 2009 à 1417 en 2018. Pour la moitié, il s'agit de profs stagiaires qui lâchent prise dès leur première année de classe. La difficulté du métier leur saute au visage. Mais on voit aussi le nombre de profs plus capés augmenter. Sébastien, par exemple, enseignait en primaire depuis 25 ans et cette année, il n'a pas fait sa rentrée.
Je vois les situations dans la classe et en dehors de la classe qui se dégradent. Les élèves sont plus les mêmes, mais bon, ça c'est la société. Avec les réseaux sociaux, on est toujours sur la brèche en se disant, purée, il y en a un qui va sortir un truc qui est complètement faux, ça va me ruiner une réputation que j'aurais passé 25 ans à construire. Il y a une pression sur les résultats, il y a une pression des parents, il y a une pression de la société, il y a un regard qui s'est dégradé aussi sur les enseignants. Il n'y a plus cette bienveillance qu'on avait pour nous il y a 30 ans. Quoi. Et donc, on est tout le temps sur le fil du rasoir, le stress en permanence, c'est usant.
Dans les Pyrénées-Orientales, le SNUIPP, premier syndicat des enseignants du primaire, a tiré la sonnette d'alarme. Pas de démission il y a 4 ou 5 ans, puis 2, puis 4 et 19 cette année.
Que deviennent ces professeurs démissionnaires ?
Sébastien a obtenu de l'éducation nationale une rupture conventionnelle et il va travailler avec un parent dans un commerce. Mais en fait, il n'y avait jamais réfléchi.
Je comptais avancer ma carrière jusqu'à la retraite, mais ça devenait quelque chose d'inimaginable. J'ai démissionné pour ne pas craquer, parce que j'ai vu des collègues qui se rendent malades, et moi je voulais plus prendre sur moi, j'ai préféré partir.
Pour Johan, le scénario est différent, démission actée depuis le 1er septembre, mais sa sortie s'est faite en plusieurs étapes.
J'ai eu des directions d'école dans les premiers temps, j'ai eu une classe fixe, etc. J'ai fait des remplacements à travers tout un département. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aperçu que j'y croyais de moins en moins en voyant l'évolution de l'institution elle-même, des programmes scolaires par rapport aux valeurs du métier, manque de motivation pour continuer. J'ai demandé à être à mi-temps afin de commencer à construire en parallèle un projet professionnel avec une micro-entreprise.
Après le mi-temps, il a obtenu 2 ans de mise en disponibilité. La dispo, c'est souvent l'alternative au départ définitif.
Donc moi, c'était vraiment une volonté, au bout de quasiment 20 ans de carrière, de faire autre chose.
Prof n'est plus forcément un métier qu'on exerce toute sa vie. L'idée fait son chemin dans les esprits.
Que fait l'éducation nationale pour éviter ces départs ?
Eh bien, une réforme de la formation est en cours pour permettre une entrée progressive dans le métier et sécuriser les débuts de carrière. Et puis, on doit être vigilant à l'usure, dit le ministère. Améliorer les conditions de travail, proposer d'autres postes, développer une RH de proximité. Audrey Chanona est principale adjointe d'un collège de La Rochelle et membre du SNPDEN. Elle a vu des profs démissionner.
Très souvent, finalement, quand on l'apprend, nous, il est trop tard. La décision est actée, arrive sur nos bureaux. Donc nous, en tant que chef d'établissement, en tant que manager, on a finalement peu de solutions pour reconnaître l'investissement de nos enseignants. Il faudra sans doute s'y attacher assez rapidement. On connaît la crise de vocation et là, on a des enjeux d'avenir.
Dans la dernière enquête sur le climat scolaire, 38% seulement des enseignants du public se disent capables d'exercer le même métier jusqu'à la retraite.
Merci beaucoup Marie Garrier pour cette enquête sur ces professeurs qui ont décidé de quitter l'éducation nationale.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h22, nous retrouvons tout de suite notre pépite musicale avec vous, Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
À 71 ans, Daniel Auteuil publie demain son premier album. Il sera notre invité d'ailleurs à 9h dans Laissez-vous tenter.
Et en préparant cette émission, j'ai redécouvert que Daniel Auteuil avait déjà chanté. On est en 1984, l'acteur est cantonné à des rôles de comédie, les deux volets des sous-doués l'ont vite catalogué. Il tente alors un pas de côté. Daniel Auteuil, fils de chanteur lyrique biberonné à Johnny, Aznavour et Luis Mariano, enregistre le générique du film L'amour en douce d'Edouard Molinaro. Paroles et musique Renaud de Tressan du groupe Soldat Louis. La chanson sortira en 45 tours l'année suivante. Daniel Auteuil défendra même le titre en télé, notamment à Champs-Élysées. J'ai un problème de rythme et quand je chantais en direct, j'étais obligé de compter la mesure, ce qui n'est pas très pratique, se souvient l'acteur. C'est notre pépite du jour, Que la vie me pardonne, la toute première chanson de Daniel Auteuil.
C'est déjà 10h, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Derrière la porte, j'entends la vie qui bouge. Je connais par cœur son tempo, ses lumières. Quand elle fait fort et que l'aiguille bloque dans le rouge. Dehors, je vais juste voir comment ça se passe. Des fois que ce soir, ce serait pas comme hier soir. Je me coince au bar devant une bière fadasse. Je traîne pour voir pourquoi va bien falloir.
La musique lui a très vite dit stop à Daniel Auteuil. Le comédien a pourtant enregistré un deuxième morceau en 1985. L'année suivante, Jean de Florette sort au cinéma. Son premier vrai rôle dramatique lui offre le César du meilleur acteur. Il décide de se consacrer au cinéma. Le renoncement, ce n'est pas moi. Alors la musique est revenue, confie-t-il aujourd'hui.
Bellery, Daniel Auteuil sera notre invité en direct à 9h dans Laissez-vous tenter. On verra s'il se souvient de ce merveilleux titre. Et vous l'entendrez, il nous embarque dans un univers tout à fait différent. Merci
beaucoup.
Il a enlevé le perfecto. Dans un instant, on va retrouver nos grosses têtes et ensuite Louis Baudin, qui est avec moi dans ce studio, nous dira ce que nous réserve cette journée. A tout de suite, Louis.
RTL Matin.
Les grosses têtes vous attendent. Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Ce matin, Olivier de Kersauzon serait-il démasqué ?
Tout à l'heure, monsieur Kersauzon, nous a annoncé. Oui, ils sont deux. Il y en a un qui prend l'argent, l'autre qui parle pas.
mais je les connais.
Écoutez, là, il n'y a rien à ajouter. Hein. C'est les grosses têtes dans leur essence même. Et elles vous donnent rendez-vous avec Laurent Roquet de 15h30 à 18h sur RTL. Louis Baudin. Voilà, alors on en arrive à ce temps bien particulier qu'on a en ce moment. Je vous laisse vous dépatouiller.
Dépatouiller, c'est le bon terme. Hein, parce qu'alors, vraiment, là, la prévision, elle nous donne du fil à retordre. Tellement elle est compliquée dès qu'on s'éloigne des 24-36 heures. Oui. Ensuite, ça change totalement. Alors, déjà aujourd'hui, le pire est passé. Hein, normalement, même s'il y a encore des averses, hein, j'en vois là à l'est du Rhône. On a également sur les Pyrénées, un peu également dans le centre. Mais normalement, le plus violent est passé, même si cet après-midi, donc on commence à avoir un temps instable entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, peut-être le Jura, avec encore quelques orages. normalement moins fort. Dans le Languedoc-Roussillon, ça devrait s'améliorer avec le retour de la tramontane, donc un ciel qui devrait se dégager. Vous voyez qu'il restera encore du temps instable dans ces régions du sud. En revanche, au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, là, ça devrait nettement s'améliorer. Cet après-midi, on range le parapluie, le ciré, et on va retrouver même de très très belles éclaircies.
Très
le
agréable.
Tout avec des températures. Alors elle qui baisse un petit peu, hein. On est à peine dans des valeurs de saison, 20 à 23 degrés, ça reste correct quand même, dans la moitié nord, 23 à 24 degrés dans la moitié sud, il n'y a que près de la Méditerranée où on dépassera les 25 degrés, pour aller même jusqu'à 29 degrés à Ajaccio.
On peut quand même si j'ai bien compris que les prévisions étaient compliquées, parce que le temps lui-même se projette un tout petit peu dans le reste de la semaine.
Alors oui, justement, pour le reste de la semaine, vendredi on devrait avoir une belle accalmie, et puis samedi et dimanche, eh bien on va vraiment vers une dégradation, hein. Ça a l'air instable. Alors je vais peut-être encore changer la prévision à partir de demain, parce que c'est tellement, tellement changeant. Vous savez, on fait des prévisions toutes les 6 heures. On reçoit ce qu'on appelle des modèles météorologiques.
Oui.
Et bien, ces modèles de 6 heures en 6 heures changent et chaque modèle est différent. Donc, pour faire une bonne prévision avec ça, ben accrochez-vous.
C'est
donc,
pas facile.
C'est un peu compliqué. Bon, normalement, temps de nouveau un petit peu plus instable et nuageux pour ce week-end. Il n'y a rien de moins sûr.
Ça ressemble à un temps d'automne, là, déjà, où on ne peut pas dire ça.
Si, ça ressemble à un temps d'automne, effectivement. Pourquoi est-ce que la prévision est compliquée? Parce que d'abord, on a les cyclones sur l'Atlantique qui perturbent la prévision. Oui. Et ensuite, parce qu'on est dans cette intermédiaire où l'air frais commence à revenir et où l'air chaud essaie de résister. Donc c'est pour ça qu'on a ce temps instable, notamment dans le sud.
Merci beaucoup Louis Bodin. Je vous rappelle les deux grands rendez-vous que nous avons ce matin sur notre antenne. Le premier concerne le fils du président américain Hunter Biden qui donne sa première interview en France à Alba Ventura à l'occasion de la sortie de son livre Les Belles Choses qui paraît aux éditions Albin Michel. Et puis nous serons avec le ministre de la Santé Olivier Véran à 8h20. Nous reviendrons avec lui sur les propos du président de la République. A-t-il oui ou non entrouvert la porte d'un assouplissement du pass sanitaire? C'est la question que nous nous posons tous ce matin. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 16 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est RTL qui vous l'a révélé hier soir. Près de 6 millions de ménages modestes vont bénéficier d'un chèque énergie exceptionnel de 100 euros. Il sera versé au mois de décembre. Et pour ça, Martial You, aucune démarche à effectuer.
Ben non, on va le distribuer automatiquement à ceux qui touchaient déjà le chèque énergie. On va donc passer de 150 à 250 euros, hein, de coup de pouce pour les familles les plus modestes. Les simulations qui ont été réalisées par des organismes publics ces derniers mois montrent que la facture de gaz et d'électricité sur 2021 va augmenter de 133 euros en moyenne, sans parler du carburant. Donc le gouvernement compense. On sait que le choc inflationniste est devant nous, sans doute au début de l'année prochaine, c'est-à-dire à quelques semaines des élections. Le gouvernement n'a pas oublié que la crise des gilets jaunes a débuté sur un problème de prix de l'essence. Le SMIC, lui aussi, va augmenter, comme par hasard, en octobre.
Merci Martial Liu du service économie d'RTL. Le gouvernement généreux sur l'énergie, mais un peu moins sur l'allocation d'adultes handicapés. Le mode de calcul devait être réformé pour ne plus prendre en compte les ressources du conjoint, mais l'exécutif a fait marche arrière. Une reculade qui exaspère William Renault. Ce système lui fait perdre 6 800 euros par an.
Lorsqu'un époux ou une épouse travaille, l'autre n'existe plus. Il n'a plus ni de revenus ni d'existence. Il vit au crochet de l'autre. S'il veut faire un cadeau à son amoureux ou son amoureuse, il va falloir qu'il lui demande de l'argent, ce qui est quand même grave. C'est un problème d'humanité, de respect de l'autre. J'ai bien le droit d'exister, c'est pas parce que je suis en situation de handicap que je suis rien. Pour le coup, c'est ça. Je ne suis plus rien.
Propos recueillis par Patrick Hisson. Des manifestations sont prévues dans toute la France aujourd'hui. Et actuellement, près de 40% des Français affirment qu'ils vivent moins bien qu'il y a 10 ans. C'est ce qui ressort du baromètre du pouvoir d'achat Cofidis dévoilé par le Parisien. Les sondés estiment qu'il leur manque 467 euros à la fin du mois.
C'est du jamais vu. Depuis la mi-juillet, le taux d'incidence vient de passer sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants.
Une quinzaine de départements sont même en dessous de 50. On va être amené à alléger un peu les contraintes. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Près de 50 millions de Français sont désormais vaccinés. Et pour les personnels de santé, la vaccination est même obligatoire depuis hier. Les récalcitrants peuvent être suspendus, voire licenciés, mais cela pose de vrais problèmes dans les EHPAD, qui sont déjà en manque de personnel. D'où cet appel de Pascal Chanvert, le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées.
Nous demandons à l'État qu'il autorise les directeurs à ne pas suspendre les professionnels, parce que sinon nous serons dans une situation intenable. Il faut faire du cas par cas, c'est ça le pragmatisme.
propos recueillis par Aurélia Valarié.
Il est 8h20, je vous rappelle, Olivier Véran sera avec nous dans ce studio.
Un moment très fort hier au procès des attentats du 13 novembre avec la prise de parole de Salah Abdeslam. On a attaqué la France en réponse au bombardement sur l'État islamique, mais il n'y avait rien de personnel. Propos glaçants qui ont provoqué la colère des parties civiles, comme Georges Saline. Sa fille Lola a été tuée au Bataclan.
Chaque élément de ce qu'il a dit me hérisse profondément. Il dit on voulait frapper la France et pas des personnes innocentes. Et en fait, ils ont frappé des personnes innocentes, bien entendu. C'est un crime absolu. C'est un discours tout à fait haïssable, mais qui a le mérite de la limpidité.
Georges Saline au micro d'Anne Le Hénaff. Si vous comptiez profiter de la plage aujourd'hui dans le sud, prudence. Hier, 9 personnes sont mortes noyées, 5 victimes dans l'Hérault, 2 dans les Bouches-du-Rhône et 2 autres dans l'Aude. Essentiellement des personnes âgées qui ont été surprises par la houle. Les plages ne sont plus surveillées.
Ce devait être le contrat du siècle. La France perd la main dans le dossier des sous-marins australiens.
L'Australie qui rompt son accord avec Paris pour l'achat de 12 sous-marins au profit d'une alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Une commande à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Elle devait assurer 4000 emploi pendant 10 ans. Immense déception pour Vincent Hurel de la CGT.
Comme tout le monde, on apprend ça ce matin au réveil, un peu tôt, mais au réveil, c'est l'heure australienne. Ce qui était à craindre il y a quelques mois, aujourd'hui se révèle vrai en fait. C'est forcément un coup dur, personne ne peut se satisfaire de ça. Oui, évidemment, une déception, 500 emplois plus 120 Australiens qui sont impactés directement sur Cherbourg. La facture, c'est les salariés qui vont la payer. La participation, l'intéressement, qu'on a connu à zéro cette année. Deux grandes chances d'être à nouveau à zéro l'année prochaine. Maintenant, il va falloir en tirer les conséquences, savoir se poser et réfléchir aux risques qu'on prend quand on fixe sa stratégie sur zone d'exportation d'armes.
Réaction recueillie par Vincent Serrano. La France, bien sûr, dénonce une décision regrettable. Paris se réjouit en revanche d'un succès majeur au Sahel. Les forces françaises ont tué le chef de l'État islamique au Grand Sahara. Il a péri dans une frappe de la force Barkhane. On passe au foot. Des débuts en demi-teinte pour les M&M's. Le trio Messi, Neymar, Mbappé aligné hier pour la première fois par le PSG à l'entame de la Ligue des Champions. Match nul un partout face à Bruges. Mbappé est sorti sur blessure. Ce soir, place à la Ligue Europe. Lyon est de retour face aux Glasgow Rangers en Écosse. Coup d'envoi à 21h, match à suivre sur W9.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. Nous, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et ce matin, retour vers le futur dans l'Afghanistan d'il y a 20 ans qui sera probablement celui de demain.
A tout à l'heure. Dans un instant, notre rendez-vous avec François Langlais et l'Angleco qui va nous expliquer que l'eau minérale et en particulier le groupe Danone ont quelques questions à se poser dans les mois et dans les années à venir.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'Angleco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous voulez nous conter des histoires d'eau, E-A-U-X. Hein,
oui, de l'eau comme Evian et Volvic. Ce sont les deux marques stars du géant français de l'agroalimentaire Danone. Un nouveau patron est arrivé hier chez Danone, Antoine de Saint-Affrique. Et l'une des questions stratégiques que va devoir se poser le nouvel arrivant pour remettre sur pied notre champion quasi-centenaire, c'est: faut-il se débarrasser de la division eau minérale de Danone qui pèse 18% des quelques 25 milliards de chiffre d'affaires? Parce qu'une conviction monte chez les investisseurs internationaux, le secteur de l'eau en bouteille, c'est l'industrie du tabac de demain.
Attendez, que voulez-vous dire exactement?
Bien sûr, l'industrie du tabac, elle est très nocive pour la santé, c'est évidemment pas le cas de l'eau minérale, mais les bouteilles transparentes inspirent de plus en plus de méfiance à cause des dommages environnementaux qu'elles causent. Or, la plupart des grands financiers, les fonds de pension par exemple, les gestionnaires d'épargne, cherchent désormais à respecter les critères de l'investissement socialement responsable, l'ISR. Ils veillent donc à mettre l'argent qu'on leur confie dans des entreprises qui respectent l'environnement, oui, qui ne sont pas susceptibles d'être mises en cause par les mouvements écologistes. Du coup, ils se méfient de l'eau claire, justement à cause de ces questions écologiques.
Mais alors, quels sont exactement ces dégâts environnementaux?
D'abord, les bouteilles elles-mêmes. Elles sont faites de plastique. L'université américaine de Harvard a ainsi calculé que pour fabriquer les bouteilles destinées au seul marché américain, il fallait 17 millions de barils de pétrole, vous voyez. Et que 86% de ces emballages finissaient en déchets parce qu'ils n'étaient pas triés. Et c'est sans compter la dépense carbone du transport de l'eau en bouteille, parce que l'eau de telle source particulière, elle est évidemment pas délocalisable. Autrement dit, une bouteille d'Evian achetée à Singapour, elle a forcément parcouru 10 000 km en avion ou en bateau. Ajoutons enfin le reproche de ponctionner les nappes phréatiques, notamment dans les périodes de sécheresse, reproche qui est là aussi celui des associations écologistes. C'est le cas à Volvic, par exemple.
Mais alors, est-ce que Danone pourrait vraiment se trouver contraint de vendre, par exemple, Evian?
Écoutez, j'observe que Nestlé, concurrent de Danone, vient de vendre ses eaux aux États-Unis. Et l'entreprise se concentre maintenant sur ses grandes marques comme PA Perrier et San Pellegrino. Cela dit, la vente n'est pas la seule option. Jusqu'ici, chez Danone, on fait des efforts considérables pour la préservation de la source des viandes, par exemple, et son renouvellement. On travaille à de nouveaux conditionnements qui permettraient de vendre, par exemple, l'eau minérale en vrac, figurez-vous, de façon à limiter les déchets produits. On travaille aussi à intégrer une part croissante de plastique recyclé. Mais est-ce que ça va suffire?
Reste une question, comment évoluent les ventes chez nous, François?
Pas terrible du tout. Hein. Pour les bouteilles vendues au café-restaurant, inutile de dire que 2020, ça a été un massacre à cause de l'épidémie. Les ventes dans la distribution étaient, elles, en chute quand même de plus de 3% l'année dernière, selon le magazine LSA. Et jusqu'à moins 18% pour les eaux aromatisées. À l'inverse, les gourdes, bien sûr et utilisables, connaissent, elles, un vrai boom.
Ah, les bonnes gourdes de notre enfance. Merci beaucoup, François Langlais. L'Anglais qui a été retrouvé, bien entendu, sur le site RTL.fr. À demain matin, François. Il est 7h40. Bonjour, Alba Ventura.
Bonjour, Yves. Bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, celui qui a été la cible de Donald Trump pendant la campagne. Il se confie sur les tragédies de sa famille et sa descente aux enfers. Il publie Les belles choses chez Albin Michel.
A tout de suite avec le fils du président américain Hunter Biden sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin en exclusivité Hunter Biden, le fils de Joe Biden, le président américain.
Bonjour Hunter Biden et merci d'être avec nous depuis Santa Monica en Californie. Alors vous publiez Les belles choses chez Albin Michel et c'est un témoignage poignant parce que votre vie a été émaillée de drames familiaux, de descentes aux enfers dans l'alcool et dans la drogue. Et puis c'est un témoignage forcément pas banal parce que vous êtes le fils du président des États-Unis, Joe Biden. D'abord Hunter Biden, quand vous avez dit à votre père que vous écriviez ce livre dans lequel vous vous livrez complètement, qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Mais il était fier de moi. Il était fier de moi. L'une des choses, quand on est toxicomane, c'est que c'est un problème universel qui touche tout le monde de la même façon. Toutes les familles, pratiquement, connaissent de près ou de loin des situations analogues. Ce sera peut-être un père, une mère, un ami, un proche, quelqu'un que l'on aime. Et quand on connaît quelqu'un qui souffre de toxicomanie, on connaît ses problèmes. Et c'est un problème qui touche tout l'entourage, pas simplement la personne elle-même. Et tout le monde est affecté par les conséquences de ce mal. Et donc j'ai écrit un peu ce livre pour ces personnes-là, pas simplement les toxicomanes eux-mêmes qui sont perdus dans leur addiction, ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années, mais également pour tous les êtres proches, comme mon père m'aimait qui continue de m'aimer et qui a souffert, qui était pour ainsi dire aux premières loges. Donc quand je lui ai dit que j'écrivais ce livre et quel en était l'objet, il en était très fier. Il était très fier de cette démarche. Et je lui suis reconnaissant de tout l'amour qu'il m'a apporté toute ma vie. C'est d'ailleurs, j'en parle dans ce livre, c'est ce qui m'a permis de survivre et d'être en mesure aujourd'hui de raconter cette histoire.
Dès le début de votre livre, vous le dites, hein, vous avez perdu votre maman et votre petite sœur dans un accident de voiture quand vous aviez 2 ans. Vous étiez dans cette voiture avec votre frère Beau. Votre père a fait une rupture d'anévrisme, il a failli mourir, il a même reçu l'extrême onction. Et votre frère Beau a succombé à une tumeur du cerveau en 2015. Ça a été une douleur d'écrire ce livre.
Ça a été une douleur en partie. D'autres parties, c'était véritablement une catharsis. Mais c'est vrai qu'il y a des passages du livre qui ont été difficiles à écrire. Pour autant, j'ai éprouvé un sens, disons, une volonté de m'en sortir. Et ayant écrit tous ces passages, je me suis senti libéré, soulagé presque, simplement d'avoir pu raconter l'histoire telle qu'elle l'était, l'histoire de ma vie, parce qu'il y a tellement de gens qui ont connu des tragédies dans leur existence. Ce que j'espère, c'est que lorsque on lira ce livre, on verra qu'on peut s'en sortir. Il y a moyen d'émerger et même de survivre à ces moments.
Qu'est-ce que vous avez vécu de pire dans cette déchéance dans la drogue, Hunter Biden ?
À dire vrai, tout était horrible. Je ne sais pas s'il y avait un moment pire que d'autres, un aspect plus noir que les autres. Ce que je peux vous dire, ce qui m'a hanté le plus longtemps, c'est que lorsque mon frère était à l'article de la mort avant de sombrer dans le coma, il a voulu que je lui promette de rester sain, en bonne santé, et je lui ai fait la promesse de rester droit, pour ainsi dire. Et je savais que pour lui, c'était important que je sois là, aux côtés de mon père, bien sûr, qui allait évidemment souffrir terriblement de la disparition de mon frère. Et je devais être là aussi, aux côtés de mes enfants, et j'ai fait cette promesse avec l'intention de la tenir. S'il y a une promesse que je voulais absolument tenir, c'était bien celle-là. Or, hélas, la toxicomanie a eu le dessus. Et donc, je n'ai pas pu tenir cette promesse. C'est ça qui est la chose peut-être la plus dure à accepter à ce jour. Mais en même temps, c'est ce que je me rappelle tous les jours. Hein, la puissance de l'addiction, de la toxicomanie. Pourquoi il ne faut jamais baisser la garde et pourquoi il faut être toujours, toujours conscient du danger. Et je crois que la plupart des gens qui souffrent de toxicomanie le savent. Ils doivent rester sur leur garde à tout moment parce que justement, cette addiction ne disparaît jamais.
Hunter, vous êtes libéré de vos démons aujourd'hui, vous êtes clean ?
Et oui, Dieu merci. Je me réveille chaque matin avec un sens de gratitude énorme. J'ai dû vraiment travailler dur pour changer de mode de vie. Alors effectivement, je suis sobre aujourd'hui et je suis plus heureux que jamais. J'ai pu maintenant, et je peux maintenant réaliser des rêves que je n'aurais même pas pu avoir le courage de concrétiser. Maintenant, je peux le faire. C'est une véritable libération. Je suis maintenant, je peins, j'écris. Mm-hmm. J'ai un gamin de 17 mois qui adore ses sœurs. Il remplit ma vie de bonheur. Et il y a certains démons du passé qui sont à l'arrière-plan, mais j'ai véritablement réussi à surmonter tout cela et je suis un homme extrêmement heureux aujourd'hui et sobre, effectivement.
Hunter Biden, à la fin de votre livre, vous écrivez une magnifique lettre à votre frère. Ce frère, vous diriez qu'il vous a éduqué ? C'était une relation plus que fraternelle.
Oui, mon frère et moi-même avons juste un an d'écart, un an et un jour. On était presque comme des jumeaux. Nous étions, pour ainsi dire, les deux faces d'une même médaille. Et mon frère et moi, nous nous soutenions l'un l'autre à travers toutes les épreuves. Et mon frère faisait partie de ma vie à une échelle immense et réciproquement. Enfin, je crois qu'on peut dire cela. C'est probablement lui qui m'a, en quelque sorte, ouvert au monde et protégé contre le monde d'une certaine façon. Et lorsque je l'ai perdu, bien sûr, je l'ai perdu lui à jamais, mais ce dont je me suis rendu compte en sortant de cette espèce de brouillard qui m'a accablé pendant les deux ans qui ont suivi sa mort, parce que c'était une souffrance terrible, ce dont je me suis rendu compte lorsque ce brouillard s'est dissipé, c'est que je n'allais jamais perdre mon frère parce que il faisait toujours partie de ma vie, il en fait toujours partie aujourd'hui, même s'il n'est pas physiquement présent. Son esprit m'accompagne aujourd'hui autant que pendant tout le reste de ma vie.
Hunter Biden, évidemment, avec cette vie tourmentée, vous êtes devenu une proie facile pour les adversaires de votre père, Donald Trump, et ses amis pendant la campagne. Ils avaient même trouvé un slogan de campagne « Où est Hunter ?» Hein, sous-entendu, où est-ce qu'il se cache ? Vous vous êtes senti un poids pour votre père ?
Non, je ne pense pas avoir été un poids pour lui. La question est de savoir qui devait présenter ses excuses à qui. Moi, je l'appelais au téléphone, disant « Oh, je suis désolé qu'il te fasse toutes ces misères à cause de moi. » Et puis lui, inversement, me disait « Ah, je suis vraiment désolé que tu sois ainsi mise sous les feux de la rampe dans ces conditions. Oh, je ne serai jamais un poids pour mon père, mes enfants ne seront jamais un poids pour moi. » Je crois que les gens ont tendance
tendance à oublier que les gens qui font l'actualité sont des êtres humains. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous les parents dignes de ce nom, il n'y en a aucun qui considère leurs enfants comme un poids, et inversement. Je crois que ça n'existe pas, enfin, ça ne devrait pas exister. Et notre priorité, eh bien, c'est justement la famille. Et c'est, ça a toujours été le cas dans ma famille, et mon père, à ce titre. Mon père, c'est mon héros. Mon père, il est tout pour moi. Et je sais que je suis cela pour lui aussi.
Hunter Biden, j'ai une dernière question, mais qui concerne l'actualité. Votre père a été sévèrement attaqué au moment du retrait des troupes américaines à Kaboul, en Afghanistan. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, a parlé de retrait imbécile. Il y a eu des critiques de toutes parts. Vous comprenez, et est-ce que ça vous touche, ce genre de critiques ?
Non, j'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude, après tout, ça c'est de bonne guerre, c'est la politique, pour ainsi dire. Et je reste très fier de l'action de mon père. Alors, je ne fais pas partie de l'administration et je n'étais pas habilité à exprimer des commentaires sur l'actualité, mais ce que mon père a fait en Afghanistan, c'était un acte extrêmement courageux. Il a fait ce que les administrations précédentes n'ont pas eu justement le courage de faire, à savoir de mettre fin à 20 ans de guerre en Afghanistan. Et là, je suis à 100% derrière mon père, et je sais que son équipe travaille très dur, précisément pour rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie ici et bien entendu là-bas. Et je pense notamment à nos alliés afghans. Et je pense que le moment était venu pour nous de laisser le peuple afghan déterminer sa propre destinée.
Merci beaucoup, Hunter Biden. Merci. Votre livre s'intitule Les belles choses, parce qu'en dépit des drames, il y a de très belles choses. C'est aux éditions Albin Michel. Et merci à Robert Wolfenstein pour la traduction.
Merci. C'était un honneur d'être invité.
Hunter Biden, qui, au micro d'Alba Ventura, affirme « Mon père, c'est mon héros ». L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, le journal de 8h avec Dominique Tenza, notre page météo avec Louis Baudin, et puis l'œil de Philippe Cavrivière, s'il vous plaît.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour Philippe.
Bonjour. Et bonjour.
Hunter Biden était donc notre invité ce matin.
Passionnant d'écouter le fils de Joe Biden. Quelle santé, ce Hunter à 84 ans. Bon, pas étonnant, le père est en pleine forme à 127. Hein.
Oui, très bien. Alors, après Ruquier samedi soir, CNews lundi, RTL mardi, Éric Zemmour était hier l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Ouais. Et il a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature.
Il a niqué tout le monde, mon Éric, cette semaine. Il est en grande tournée pour rien dire. C'est le Zemmour tour. Bientôt, on va le voir fendre la foule pour rentrer dans les locaux de CNews, tel Johnny au Parc des Princes en 93. Par contre, il n'arrête pas de monter dans les intentions de vote. Zemmour, il est comme le jeu du marteau à la fête foraine. Plus tu tapes fort dessus, plus il monte.
Bon, mais il est désormais à 10% d'intention de vote. Hein.
Relativisons. Il fait quand même 90% des Français qui s'en foutent. En tout cas, depuis qu'il n'a plus le droit de parler, il n'y a jamais autant parlé. Je ne sais pas s'il y a trop d'étrangers en France, mais il y a trop de Zemmour dans nos télés. Il hésite, mon frérot, il réfléchit. Mais fonce, mon Rico. Regarde Montebourg. Il n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi. Bon, il va prendre une grosse branlée. Laisse tomber, c'est un mauvais exemple.
Alors, Emmanuel Macron a clôturé le Beauvau de la sécurité et il a annoncé donc un budget d'1,5 milliard d'euros de crédit pour l'intérieur.
Dont 1,4 milliard pour Marseille. D'ailleurs, à Marseille, vous avez vu, le corps d'un nourrisson a été découvert dans un train à la gare Saint-Charles. Fait divers horrible. J'espère au moins qu'il y avait la petite étiquette dessus. Sinon, ils sont obligés de le détruire. Hein. C'est pas... Nous vous rappelons que tout nourrisson abandonné et non étiqueté entraînera l'intervention de l'équipe de déminage.
Alors cette semaine a lieu le salon des Jean Chêne, hein, des productions animales, l'occasion pour nous de revenir sur deux articles de nos confrères de Libération.
Libération, des articles sur le broyage des poussins et la castration à vif des porcelets. Vous noterez que ce sont des poussins mâles qu'on aplatit et les porcelets mâles forcément qu'on déburne. Ce qui a fait réagir mon Louis Baudin. Ah, on les entend moins, leur grande gueule aux féministes. Je dis, calme-toi, Louis. On n'a plus le droit de le dire.
Alors,
propos du bien-être animal, on ne connaît toujours pas votre position sur la corrida, Philippe.
Je suis pour. Ah oui, je suis pour. Oui. Mais seulement si c'est le taureau qui s'est inscrit de son plein gré. Si c'est quelqu'un qui a inscrit le taureau de force à la compétition, c'est pas fair play. Non. La corrida, c'est quand même le seul sport où on torture et on tue le perdant. On n'a jamais coupé les oreilles et la queue des tennisman français. Je ne dis pas qu'on n'en a pas eu envie, je dis juste qu'on ne l'a pas fait. Alors la corrida, on la défend en invoquant la tradition, mais ce n'est pas un argument, la tradition. La tradition d'épouser sa cousine qui a longtemps eu cours dans les Vosges, jusqu'à il y a 4 ans, on a fini par la déclarer illégale. C'est pas plus mal.
Bon, sans transition, oui, un mot de SpaceX, des touristes de l'espace qui se sont envolés donc cette nuit, sans astronautes professionnels pour les accompagner.
Voilà, faites les crâneurs, les milliardaires. S'il y a une coucougnette en plein vol, un milliardaire, ça change même pas le liquide des essuie-glaces de sa Bentley. Donc s'il y a une fuite de carbu à 700 km au-dessus du sol, on va se marrer. Ils auraient pu prendre au moins Olivier de chez Carglass, un gars qui a des notions pour le bricolage.
D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Philippe Croizon veut convaincre Elon Musk de l'envoyer dans l'espace.
Oui, Philippe veut devenir le premier homme à poser le moignon sur la Lune. Mon filou, méfie-toi d'Elon Musk, c'est un homme d'affaires, il est prêt de ses sous. Il va te faire voyager en bagage cabine, dans le petit tiroir au-dessus des sièges.
C'est pas impossible.
En tout cas, ce serait formidable que Croizon aille dans l'espace. Ce serait un grand pas pour l'humanité et une petite roulade pour Philou. Nous vous rappelons que tout Philippe Croizon abandonné et non étiqueté entraînera l'intervention de l'équipe de déminage.
Ah là là, l'œil de Philippe Cavrivière, tous les matins sur RTL, juste avant 9h et avant notre météo avec vous, Louboudin. Merci, à demain.
À demain,
la météo, donc ça s'arrange, oui. En tout cas pour les régions du nord-ouest et du nord, hein, au nord du Nice et dans la diagonale à peu près de Bordeaux à Strasbourg, au nord de cette limite, il y a des nuages ce matin. Cet après-midi, vous retrouverez de belles éclaircies, vous pourrez ranger le parapluie, plus de précipitations. En revanche, au sud de cette limite, là, ça restera encore très instable, hein, des Pyrénées aux frontières de l'Est avec quelques orages moins violents qu'hier. Dans l'Languedoc-Roussillon, retour de quelques éclaircies avec l'aide de la tramontane. Et puis côté température, 20 à 23 degrés dans la moitié nord cet après-midi, c'est quasiment de saison. 23 à 24 degrés dans la moitié sud et 25, 27 à 29 degrés près de la Méditerranée.
Ah oui, quand même.
Quand même, ah oui, la Méditerranée, on va retrouver le soleil et donc les températures très douces.
Merci beaucoup, cher Louis Baudin. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Vers un allègement des contraintes sanitaires.
Et si le pass devenait bientôt facultatif dans certains départements? C'est bien ce qu'a laissé entendre hier Emmanuel Macron interrogé au cours d'un bain de foule.
Les précisions et les réponses du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui sera notre invité dans une vingtaine de minutes en direct dans ce studio.
34 milliards d'euros perdus en une nuit. La France peut dire adieu au contrat du siècle. L'Australie, qui devait acheter 12 de nos sous-marins, préfère se tourner vers les États-Unis. Nous allons tenter de comprendre et d'analyser cet énorme camouflet. Nous partirons à Kaboul, où les talibans viennent de rétablir un ministère de la vertu. Mutilation et lapidation figurent toujours parmi les peines encourues. Quand la vocation devient un chemin de croix, l'enquête RTL sur ces profs qui choisissent de raccrocher. Le nombre de démissions a été multiplié par 4 en 10 ans. Et puis la Ligue des Champions et le PSG, décevant hier soir, tenu en échec un partout à Bruges.
Le surf de l'info de Cyprien Signy.
Nous et l'alcool, fin de la love story.
Ce sera dès la fin du journal.
RTL Matin.
C'est donc un coup de théâtre brutal annoncé cette nuit par le Premier ministre australien. Canberra décide de rompre le contrat conclu il y a bientôt 6 ans avec la France. La vente de 12 sous-marins pour un montant total de plus de 30 milliards d'euros. Bonjour Christophe Degroix.
Bonjour.
Au sous-marin français, l'Australie a donc préféré la technologie américaine.
Oui, la France avait vendu des sous-marins à propulsion diesel électrique. Et les Américains proposent du nucléaire. La différence, c'est qu'un nucléaire peut rester sous l'eau beaucoup plus longtemps, 80 jours en moyenne, alors que le diesel doit remonter environ toutes les semaines pour emmagasiner l'oxygène nécessaire au moteur. Naval Group avait pourtant accepté beaucoup de choses, en particulier de fabriquer l'essentiel de ces sous-marins en Australie, et donc de livrer notre technologie. Sentant le vent tourner, le PDG était même allé en plein confinement sur place, subissant 2 semaines de quarantaine pour rencontrer des ministres, mais rien n'y a fait. La vieille alliance militaire entre États-Unis, Grande-Bretagne et Australie s'est ressoudée face à la menace de la Chine dans le Pacifique.
La conséquence, Christophe, un contrat de plus de 30 milliards d'euros qui échappe donc à la France, et sans doute des conséquences pour l'emploi, à Cherbourg notamment, où sont fabriqués les sous-marins.
Alors, Naval Group se veut rassurant. Il y avait 650 150 Français qui travaillaient à Cherbourg sur ce projet, plus 350 Australiens. La première étape du contrat réalisée sera payée. Naval Group devrait tout de même réclamer des indemnités pour rupture, mais l'entreprise se veut rassurante. Entre les commandes des sous-marins nucléaires français Barracuda et les commandes brésiliennes et indiennes, le carnet de commandes reste bien rempli, nous dit-on.
Merci Christophe Decroix.
C'est donc au cours d'une séance de dédicace anodine qu'Emmanuel Macron a sans doute livré les prémices du prochain calendrier sanitaire.
En déplacement dans l'Eure-et-Loire hier, dans le cadre d'une visite consacrée au patrimoine, le président, interrogé par des riverains, a en effet annoncé que des allègements auront certainement lieu dans les départements où la situation sanitaire sera bonne. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Vous nous l'annonciez dès lundi, de fait, les chiffres dans certains départements s'améliorent vraiment.
Oui, avec désormais 17 départements sous le seuil d'alerte de 50. En moyenne en France, nous sommes passés sous la barre des 100 pour la première fois depuis la mi-juillet. Et surtout, la baisse s'accélère, moins 30% d'une semaine sur l'autre. On pourrait atteindre les 5000 nouveaux cas par jour à la fin du mois, contre 10 000 aujourd'hui.
Alors Emmanuel Macron évoque un allègement des contraintes. En dehors du pass sanitaire, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Ça pourrait être quoi, Sophie ?
C'est vrai, vous avez raison. La vie est presque revenue à la normale à partir du moment où l'on est vacciné. Même dans les boîtes de nuit, le masque n'est plus obligatoire. Masque obligatoire en revanche au bureau, dans les commerces. Il est encore à l'extérieur dans plusieurs départements. Cas de rassemblement par exemple, marché, brocante, rue commerçante. Masque obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles dans le Rhône. À l'intérieur, au cinéma, théâtre, plusieurs exploitants l'imposent, alors qu'en théorie, grâce au pass sanitaire, il ne l'est plus. Les contraintes pourraient-elles être allégées dans certains départements et pas d'autres ? Tout se décidera en conseil de défense. Le pass sanitaire, lui, reste bien obligatoire jusqu'au 15 novembre. Et après, pas sûr qu'avec l'arrivée de l'hiver, ce soit le bon moment de lever toutes les restrictions.
Merci Sophie Orange.
Et nous serons avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, que j'interrogerai bien entendu sur tous ces points d'interrogation dans quelques minutes. C'est une journée noire qu'a connue hier le littoral méditerranéen. 9 personnes sont mortes noyées en 24 heures.
Et dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Aude et l'Hérault, les sauveteurs en mer sont intervenus des dizaines de fois alors que le vent et les courants dans l'eau rendent la baignade extrêmement dangereuse. Aujourd'hui encore, les autorités appellent à la plus grande prudence. Revenons à présent sur les inondations qui ont durement frappé hier le département, avant-hier pardon, le département du Gard. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré dès la semaine prochaine, ce qui permettra d'accélérer les procédures d'indemnisation auprès des assurances. Une soixantaine de communes touchées, parmi celles qui l'ont été le plus durement, Aigues-Vives. Retour sur place, 48 heures après le déluge. C'est le choix ce matin de la brigade RTL. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous y avez rencontré pour RTL Didier, il est à la fois sinistré mais bien conscient également d'être aussi miraculé.
Oui, le mur de clôture a été couché par les flots, le jardin est recouvert de débris. Armé d'une pelle, Didier déplace des décombres, dégage de la boue. Il y a tant à faire. La trace de l'eau est juste sous l'avant-toit, loin au-dessus de sa tête.
On a 2 mètres d'eau dedans, vous voyez le mur ? Vous voyez l'ampleur des dégâts ? On n'a plus rien, les voitures, les deux voitures. On a été obligé de sortir de la maison. Sinon, on se noyait. J'étais sur le toit avec mes chiens. J'ai sauvé mes chiens, ma femme.
Comment ça se passe quand on passe 3 heures sur un toit ?
Eh bien, on se gèle les coups. Je parle cru, excusez-moi. C'est vraiment l'émotion.
L'intérieur est dévasté, la boue a tout recouvert.
Contre les eaux, on ne peut rien faire. Rien. Il n'y a rien à faire. À force de construire, l'eau de ruissellement elle est de plus en plus importante. Et on ne fait rien en amont. Là, sous l'autoroute, c'est un barrage, l'autoroute. Moi, j'avais demandé à faire une grosse buse dessous pour que l'eau s'évacue. Mais bon, on n'a jamais vu ça. Les trombes de côté. En 88, je vous dis, bon, ça s'était arrêté au mur.
Et comment expliquer, Patrick, que la maison de Didier, cette maison, ait été particulièrement touchée ?
Eh bien, c'est parce qu'elle s'est retrouvée au confluent de 2 torrents. Celui qui dévalait la rue principale du village et filait sous l'autoroute par un tunnel. Et celui qui longeait l'autoroute, l'eau s'est accumulée chez lui.
Moi, je vais proposer à l'expert qu'il m'indemnise la maison et que je vais habiter ailleurs. Qu'il casse le terrain en zone inondable, inconstructible. Ma femme ne veut plus vivre là-dedans. C'est fini. C'est 40 ans de vie passée.
En 88, pour un épisode à peu près comparable, on imaginait que cela ne pouvait pas se reproduire avant 100 ans.
Reportage auprès des sinistrés du Gard, c'était le choix ce matin de notre brigade RTL. Nous avons changé, promettaient il y a encore quelques semaines les talibans. Le retour d'un ministère de la vertu prouve exactement le contraire. Direction Kaboul dans un instant. Ne nous quittez pas. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Les craintes de la communauté internationale sont sans doute en train de se confirmer en Afghanistan.
Le mouvement islamiste qui promettait après sa prise de pouvoir davantage d'ouverture vient récemment de mettre en place son ministère, écoutez bien l'intitulé, de la promotion de la vertu et de la condamnation du vice. Une milice qui avait fait régner la terreur sous le précédent régime avant le 11 septembre. Marc Léman, notre envoyé spécial à Kaboul, a pu rencontrer ses responsables talibans qui s'apprêtent à rééduquer le pays.
Mohamed Youssouf, 32 ans, est directeur de cabinet au ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice. Lui et ses hommes nous accueillent dans un petit bureau. Il y a des sourires, de longues barbes et deux kalachnikovs. Ce responsable taliban nous le confie sans détour. Il ambitionne de réinstaurer les châtiments corporels et les lapidations.
Lorsque quelqu'un a une relation sexuelle hors mariage, il sera condamné. Si l'accusé est marié, le juge décidera d'une lapidation à mort. Si cette personne est célibataire, alors elle sera fouettée. La peine sera exécutée en public. Mais pour le moment, nous n'allons peut-être pas appliquer ces règles, car sinon le reste du monde n'acceptera pas l'émirat islamique d'Afghanistan.
Depuis la prise de pouvoir des talibans il y a un mois, il n'y a pas encore eu officiellement d'amputation ou de lapidation, mais la population craint le pire, comme nous l'explique cette activiste afghane qui souhaite rester anonyme.
Ma mère m'a raconté des histoires terrifiantes sur la façon dont ce ministère agissait à l'époque. C'est très effrayant pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, nous continuerons à nous battre pour nos droits.
Les talibans n'ont visiblement pas changé, mais nous si, insiste cette activiste, qui promet de continuer son combat malgré des discours de plus en plus radicaux parmi les fondamentalistes.
Le reportage de Marc Léman, envoyé spécial à Kaboul pour RTL. Il était à la tête du groupe État islamique au Grand Sahara. La mort d'Abou Walid al-Sahraoui, tué par des forces françaises. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a annoncé cette nuit. Le chef djihadiste était notamment recherché pour avoir personnellement ordonné l'exécution de 6 humanitaires français. C'était à l'été 2020.
8h10, quand les enseignants claquent la porte, épuisement, craquage, démission. C'est une enquête RTL.
Les profs sont de plus en plus nombreux à démissionner et le phénomène tend à s'amplifier. En 10 ans, leur nombre a été multiplié par 4. Fatigue, pression, salaire trop bas. Cette année encore, de nombreux postes resteront vacants. Après 25 ans de carrière, c'est le choix de Sébastien qui a décidé de quitter l'éducation nationale. Il s'est confié à Marie Garrier.
J'ai pas craqué en démissionnant. J'ai démissionné pour ne pas craquer. J'ai commencé ce métier par conviction, vraiment en y croyant. Et je vois les situations dans la classe et en dehors de la classe qui se dégradent. Les élèves sont plus les mêmes, mais bon, ça c'est la société. Les parents sont plus les mêmes. Avec les réseaux sociaux, on est toujours sur la brèche en se disant, purée, il y en a un qui va sortir un truc qui est complètement faux, ça va partir en 2 heures, ça va me ruiner une réputation que j'aurais passé 25 ans à construire. Il y a l'administration qui regarde ailleurs, qui vous laisse tout seul dans votre classe avec vos problèmes si vous en avez. Il y a un regard qui s'est dégradé aussi sur les enseignants. Et ça, au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est plus possible parce que c'est pas le métier que j'ai choisi il y a 25 ans.
Un témoignage recueilli par Marie Garrier. Comme prévu, la fusée Falcon 9 a bien décollé hier soir du centre spatial Kennedy en Floride. 4 touristes américains à bord du vaisseau SpaceX où ils doivent passer 3 jours désormais en orbite autour de la Terre sans aucun astronaute professionnel à bord, ce qui constitue une première historique.
Ils sont en train de tourner, hein, en ce moment même. Exactement. Voilà, mettez-vous à leur place.
Ils sont là-bas.
Alors oui, et puis le football, bah, c'est peu dire qu'on attendait davantage hier soir des Parisiens. Hein.
Ouais, malgré son trio d'attaquants stars, hier le PSG n'a pas réussi à s'imposer à Bruges, score final 1-1. Prochain adversaire des Parisiens, Manchester City, ce sera à la fin du mois. Les Anglais qui hier soir ont largement battu Leipzig, 6-3. Et puis on suivra ce soir en Europa League, Marseille, Monaco et le retour des Lyonnais sur la scène européenne face aux Glasgow Rangers. Match à suivre sur W9 à partir de 21h.
Le journal vous était proposé par Dominique Tenzan. On se retrouve à 9h. Hein,
tout à l'heure.
Pour le point de l'actualité, puis dans un instant, Monsieur Cini, vous surfez
avec une petite bouteille de vin.
A tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Cini.
Il est 8h14, Cyprien, vous surfez avec les Français et l'alcool. Enfin,
oui,
le vin.
Et un constat s'impose. C'est que ce slogan-là, vous savez ?
Sans alcool, la fête est plus folle.
Eh bien, quoi qu'on en pense, il a, semble-t-il, fini par porter ses fruits. Oui, mesdames, messieurs, décidément tout fout le camp.
Les Français consomment de moins en moins d'alcool.
Et l'infographie de l'Institut Statista sur le site de 20 minutes est éloquente. On est passé de 200 litres par an et par habitant en 1960 à 80 litres aujourd'hui, en gros, de 3/4 d'une bouteille par jour à moins d'un verre. Et pourtant, bah c'est pas faute de nous inciter à picoler, hein, d'un président qui explique.
Un buveur de vin rouge, plutôt de Bordeaux, au moins le midi et un le soir. Puisque je reste sur cette philosophie que c'est un antioxydant.
Mais oui, le vin, un antioxydant, allez-y. Il y a un ancien ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui précise.
Je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres.
Le vin, c'est un produit de bonheur aussi.
Faut croire qu'on n'écoute vraiment plus les politiques, en fait. D'ailleurs, le vin, c'est la principale victime de cette chute de consommation. Dans les années 60, quand on expliquait...
Je suis pour le vin, mais on ne doit jamais, de toute façon... dépasser 3/4 de litre par jour.
Ah bah oui, une bouteille, jamais plus. Hein. On en buvait 128 litres par an contre 36 seulement aujourd'hui. Faut dire qu'à l'époque, on avait une autre perception des choses, hein, comme dans cette archive de 1965.
On m'a appris à beaucoup boire de vin, parce que le vin est un aliment très nourrissant. Oui. Moi, j'ai bu des citernes de vin, parce que j'ai fait 2 guerres, et j'ai bien bu dans les 2 guerres. Et entre les deux guerres, j'ai bien vu aussi.
Ah bah oui, on va se gêner. Le vin, c'était la vie. Le vin, c'était positif.
Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, si on veut.
Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Et ça fait du bien, le vin.
Une nourriture qui fait du bien. Tout est dit dans le contexte de l'époque. Dans la culture populaire des années 50, l'alcool rend plus fort. Il est même bon pour la santé. Et c'est un séisme, hein, faut bien le reconnaître, quand en 1956, dans ce reportage sur les cantines scolaires, on découvre Méduzet.
Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans.
Eh oui, ce n'est qu'en 56 que le vin est interdit à la cantine, si si. Et dans les campagnes, c'est l'instituteur qui est sous pression.
À la campagne, où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien.
Oui, l'instit qui est obligé de vérifier que les parents n'ont pas glissé un litron de rouge dans le panier du petit-déj.
C'est épouvantable.
Eh oui, mais quelle époque, hein. D'ailleurs, au lycée...
Ça sent la bière.
Ça sentait la bière jusqu'en 81 à la cantoche. Oui, ce n'est qu'en 1981 que l'alcool y a été formellement interdit. Alors... Les temps changent, mais comme l'expliquait Jean-Luc Mélenchon...
Les Esquimaux ont 25 noms pour parler de la neige. Nous, plus de 100 pour parler du vin.
Parce que même si on en boit moins, qu'est-ce qu'on aime en parler quand même ?
Oh là là, incroyable. Merci beaucoup Cyprien. Comme chaque soir, on vous retrouve à 18h40
oui.
Pour défaire le monde avec toute votre petite équipe.
Et on vous expliquait ce qu'est la décroissance ce soir.
Ah, la décroissance, ouais. Tiens. Dans un instant, nous serons avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, et nous avons beaucoup de questions à lui poser.
Bonne journée avec RTL.
RTL, revivre ensemble. RTL Matin,
avec Yves Calvi.
Il est 8h20, bonjour Olivier Véran.
Bonjour Yves Calvi.
Ministre des Solidarités et de la Santé. C'est du jamais vu, hein. Depuis la mi-juillet, le taux d'incidence vient de passer sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. On a l'impression en ce moment, en fait, que quasiment tous les voyants sont au vert. Est-ce que c'est bien la situation, monsieur le ministre ?
La situation s'est considérablement améliorée grâce à la vaccination massive de la population française, grâce au maintien des gestes barrières, à l'attention, à la vigilance des Français, et puis grâce à des outils précieux comme par exemple le pass sanitaire. Il y a encore quelques 10 000 contaminations chaque jour dans notre pays, donc l'épidémie n'est pas terminée. En revanche, nous sommes sur un rythme de réduction, un rythme de croisière, si je puis dire, de moins 30% oui. environ sur une semaine. La charge hospitalière en métropole diminue, nous sommes à moins de 2 000 patients Covid en réanimation, donc nous sommes sur une bonne trajectoire qu'il faut poursuivre.
On se posait, pardonnez-moi, beaucoup de questions sur la rentrée scolaire. Est-elle réussie d'un point de vue sanitaire ? Quelles sont les remontées effectives que vous avez au ministère là-dessus ?
La rentrée scolaire à ce stade est réussie sur un plan sanitaire. Il y a des fermetures de classes, et c'est à chaque fois qu'une classe est fermée, c'est évidemment problématique pour les enfants, pour les enseignants, pour les parents, les familles, évidemment. Mais je crois que la situation est assez bien comprise. Si nous devions avoir un impact, je dirais, négatif de la rentrée scolaire oui. sur l'épidémie, nous le saurions dans les jours actuels ou les jours à venir. Donc, il est trop tôt pour être optimiste, mais en tout cas, à ce stade, je n'ai pas d'indicateur laissant à penser que la rentrée ait eu un effet négatif sur l'épidémie. Donc on reste évidemment encore vigilant. Nous en saurons plus d'ici la semaine prochaine.
Les 50 millions de vaccinés, c'est pour quand ?
On y est presque, on est à 49 850 000, oui. Donc c'est l'affaire de 2 ou 3 jours.
Vous espérez aller jusqu'à quel chiffre ? Est-ce qu'on a de nouveaux objectifs en termes de primo-vaccinés pour notre pays ? Et dans quel délai, hein ?
La France est l'un des pays dans lequel la couverture vaccinale est la plus étendue désormais. On est à près de 9 Français sur 10 vaccinables, vaccinés. Oui. Près de 9 Français sur 10. Souvenez-vous, tout nous partons. Au mois de juillet, 40% de Français souhaitaient se faire vacciner. Nous étions le dernier pays européen, quasiment. Nous sommes aujourd'hui parmi les pays les plus vaccinés au monde, mais je ne m'en satisfais pas. Il y a 57 millions de Français qui sont appelés à la vaccination. Donc j'ai envie de vous dire que plus nous vaccinerons, plus nous aurons de chances de sortir la tête de l'eau pour de bon.
Rendez-vous quand pour arriver à ces 55 ou 57 millions, raisonnablement ?
Je ne me donne aucun objectif en la matière, encore une fois.
Pourquoi ?
Parce que quand vous êtes à 90% d'une population qui est couverte, quand vous avez fait mener pendant des mois une campagne vaccinale massive, gratuite, en centre, chez les médecins, chez les pharmaciens, lorsque vous déployez du aller vers dans les quartiers populaires, lorsque vous vaccinez dans les centres commerciaux, dans les écoles, lorsque vous avez des bus itinérants qui proposent la vaccination partout, ça veut dire que vous avez mis à disposition tous les moyens possibles et imaginables. Personne n'a pu passer à côté de ce pays, n'a pu passer à côté de la nécessité de cette vaccination. Aujourd'hui, nous mettons encore les bouchées doubles sur ces publics précaires ou âgés qui ne sont pas encore vaccinés, et on travaille beaucoup avec les professionnels de santé, et nous mettons aussi les bouchées doubles pour assurer dans les bonnes conditions cette troisième doses de vaccins pour les quelques 17 à 18 millions de Français âgés de 65 ans et plus que j'invite à prendre rendez-vous pour se faire protéger.
Alors, le président de la République a-t-il, oui ou non, entrouvert la porte à un assouplissement du pass sanitaire ? Qu'a-t-il voulu dire exactement hier, lors de son déplacement en Eure-et-Loire ? Je le cite, hein, « Il y a des départements où on va être amené de toute façon à alléger les contraintes, ajoutant qu'on est sur la bonne voie. » Vous pouvez nous aider à comprendre ?
La pandémie a commencé il y a plus d'un an et demi. En un an et demi, nous avons eu 4 vagues dans notre pays. Et à chaque fois, nous avons pris des décisions pour protéger les Français. Parfois des décisions qui étaient très lourdes, le confinement, couvre-feu. Ensuite, nous avons développé de nouveaux outils efficaces grâce à la vaccination. Le pass sanitaire en est un, les systèmes de jauge, vous le connaissez tout ça par cœur. Bien et systématiquement, sûr. Nous avons mis des mesures supplémentaires lorsque la situation sanitaire l'exigeait, que l'épidémie galopait, et nous les avons allégées à chaque fois que la situation sanitaire le permettait, c'est-à-dire que le virus circulait beaucoup moins. Et nous avons toujours fonctionné de manière territorialisée. Souvenez-vous, la liste des départements qui étaient rouges, puis verts, etc. Donc, nous sommes exactement aujourd'hui dans la même logique. C'est-à-dire que lorsque la quatrième vague portée par ce variant Delta a commencé, nous avons mis en place des mesures de protection des Français. Et lorsque le variant Delta circulera moins, et que nous serons, je dirais, hors d'atteinte de cette vague, alors nous pourrons lever un certain nombre de contraintes progressivement, et probablement dans les territoires, en commençant par les territoires les plus verts.
Donc vous nous annoncez que l'on va d'une façon ou d'une autre, dans des délais que vous ne pouvez pas qualifier immédiatement, mais lever l'obligation du pass sanitaire, je vous ai bien compris ?
Je ne suis pas en train de vous parler de l'obligation du pass sanitaire en tant que tel, ça fera partie d'ailleurs de discussions au Conseil de défense et de sécurité nationale le moment voulu. Nous n'y sommes pas à l'heure à laquelle je vous parle, il y a encore quasiment 10 000 contaminations par jour, mais je vous redis que notre philosophie c'est les mesures nécessaires, toutes les mesures nécessaires, oui. Rien que les mesures nécessaires.
Il faut les définir, monsieur le ministre. Vous savez être parfaitement clair et très précis. Ceux qui nous écoutent ont besoin de savoir, non pas avec des dates immédiates, mais en tout cas, ce que sont les projets. C'est que retire-t-on, que fait-on ? Est-ce qu'on conserve le pass ? Est-ce que les mesures de distanciation sont maintenues ? Où et comment ? Où en est-on ?
Je vous réponds très clairement qu'à l'heure à laquelle je vous parle, avec 10 000 contaminations par jour, les mesures qui sont en vigueur restent les mesures qui s'appliquent et que nous n'avons pas fait d'annonce de réduction des mesures de contrôle de l'épidémie.
Donc les propos du président de la République lui ont échappé ?
Pas du tout. Il répond à une question qui est de dire, est-ce qu'on pourra alléger les contraintes et les mesures ? Oui, nous pourrons les alléger progressivement dans les départements où le virus circulera moins. On va le faire de manière progressive le moment voulu. Je vous dis exactement la même chose. Et alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans une situation qui permet de réduire les mesures de protection des Français, ce serait un peu trop tôt. Par contre, si nous continuons sur cette dynamique, dans quelques temps, dans pas longtemps sans doute, oui. Nous pourrons commencer à envisager d'alléger certaines mesures. Est-ce que ça passera par le pass ? Est-ce que ce sera d'autres mesures ? Nous le verrons.
Pas longtemps sans doute, ça veut dire quoi ? 5 000 contaminations ? Mais au lieu de 10 000 ?
Je n'ai pas de seuil ou de niveau de circulation à vous annoncer aujourd'hui. Tout dépend de la dynamique épidémique. Nous sommes encore en train, je vous le disais tout à l'heure, d'assimiler la rentrée scolaire et de vérifier que cette rentrée scolaire, le retour au travail des Français qui étaient partis en vacances, le brassage de population des Français qui sont nombreux à avoir quitté le Sud pour retrouver le Nord de la France, on est en train de vérifier que tout cela ne s'accompagne pas d'une déstabilisation du contrôle de l'épidémie. Si tel est le cas et qu'on continue de baisser de 30%, nous atteindrons à un moment donné des taux d'incidence dans certains départements, dans un premier temps, qui nous permettront de dire est-ce que les mesures que nous avons mises en place sont proportionnées par rapport à la menace ou est-ce qu'on peut les lever ? Nous l'avons fait à chaque fois, il n'y a rien de nouveau.
Il ne vous a pas échappé que les propos du président de la République entrouvraient des portes.
Mais bien sûr.
Voilà, donc il est normal qu'on vous demande des précisions bien et vous sûr. Nous dites ce matin, on espère y arriver dans des délais qui ne peuvent pas être définis et avec des assouplissements qui sont multiples.
Je vous redonne la philosophie qui est la même que depuis le début. Il y a eu des couvre-feux, puis ensuite on les a allégés, puis on les a supprimés. Il y a des mesures de jauge, et puis on les a allégés, puis on les a supprimés.
Dit autrement, est-ce que le confinement est derrière nous ?
À l'heure actuelle, on est très loin de la nécessité de confiner, puisqu'on est sur une bonne dynamique et que le virus circule moins. Mais encore une fois, c'est 10 000 contaminations par jour, c'est encore des hospitalisations. Hier, il y a eu plus de 70 décès dans notre pays, donc nous ne sommes pas encore complètement tirés d'affaire, mais sur une bonne trajectoire. De toute façon, il suffit de regarder la courbe, hein. Et puis les Français savent parfaitement lire cette courbe.
Je pense qu'ils
ont monté très haut, en cloche, et ensuite, elle diminue. On est à mi-pente. Donc on continue comme ça.
Outre les propos du président de la République hier, l'actualité c'est l'obligation vaccinale des soignants qui entrait en vigueur. Y a-t-il eu des dysfonctionnements à cause d'absence ou des déprogrammations ?
Moi je fais deux constats. D'abord le premier, c'est que la continuité des soins, la sécurité des soins et la qualité des soins ont été assurés hier. dans l'ensemble des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Il y a eu quelques services, notamment des services techniques, et je pense à un service d'IRM ou un bloc de coronarographie qui a pu être gêné pendant quelques heures sur l'ensemble du territoire. Oui. Mais la continuité des soins a été assurée. Et le deuxième constat que je fais, qui est le plus important, c'est que toutes les personnes qui travaillent au contact de Français fragiles ou âgés ou malades sont forcément désormais vaccinés, ce qui veut dire que le risque de contamination au sein même des hôpitaux et des EHPAD est diminué. Il y a eu hier quelques 3000 suspensions qui ont été signifiées à du personnel des établissements de santé ou médico-sociaux qui n'étaient pas encore entrés dans un parcours de vaccination. Nous parlons d'un public de 2,7 millions de salariés. 3000 suspensions ont été notifiées. Un grand nombre de ces suspensions ne sont que temporaires, puisque les retours que j'ai des établissements, c'est que les salariés, d'ailleurs essentiellement du personnel des services support, très peu de blouses blanches, c'est-à-dire surtout dans les secteurs de blanchisserie ou d'alimentation ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et beaucoup d'entre eux ont décidé de se faire vacciner, voyant que l'obligation était une réalité.
Vous nous annoncez donc 3000 suspensions. Est-ce qu'on a des chiffres de démissions, monsieur le ministre ?
Il y a quelques dizaines de démissions à ce stade qui ont été recensées dans notre pays. Alors c'était le premier jour hier, je ne dis pas que ça ne va pas, mais on est très loin. J'entendais hier à la radio, peut-être pas la vôtre, mais sur d'autres radios, 200 à 300 000 personnes non vaccinées dans les hôpitaux. En réalité, tout le travail qui consistait à faire remonter les données, faire remonter les passes sanitaires qui a été effectué, a permis d'augmenter très fortement les chiffres. Par exemple, je crois que c'est au CHU de Rouen, je ne vais pas vous dire de bêtises, 99,7% des salariés sont vaccinés. Et vous savez pourquoi ? Et ça ne m'étonne pas, et j'avais dit que j'étais confiant. J'avais dit que j'étais confiant sur cette obligation vaccinale, parce que nous sommes dans un pays avec des droits et des devoirs, parce que les soignants, ils ont une vocation au service des malades, parce qu'ils ont toujours agi en responsabilité, parce qu'ils connaissent l'obligation vaccinale, ils y ont été soumis pour d'autres maladies avant de pouvoir mettre la blouse blanche. Donc, je reste encore évidemment prudent, c'était le premier jour, nous n'avons pas eu de chaos, loin s'en faut, et les chiffres de couverture vaccinale à l'hôpital et dans les EHPAD sont bien plus élevés que ce qu'ils auraient été sans l'obligation vaccinale.
Les EHPAD, parlons-en. Pascal Chanvert, qui représente les EHPAD, vous demande un assouplissement dans ces structures. Il dit qu'il y a déjà de gros problèmes d'effectifs et de recrutement de personnel et que la contrainte vaccinale risque de mettre à mal les EHPAD. Qu'en pensez-vous et qu'avez-vous à lui répondre ?
Je réponds à Pascal Chanvert, qui a été consulté comme tous les acteurs du milieu des EHPAD. Je rappelle que toutes les fédérations se sont prononcées pour l'obligation vaccinale. Tous les ordres professionnels se sont prononcés pour. Il y a un consensus dans la profession extrêmement large. Je réponds à Pascal Chanvert que la loi, elle s'applique. Nous sommes en République, que cette loi, elle était consensuelle, votée par une très large majorité, y compris des membres de l'opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est nécessaire, que nous l'appliquons avec fermeté, mais avec discernement. Et que lorsqu'un soignant, par exemple dans un EHPAD, n'a pas été vacciné à la date d'hier et qu'il se présente au travail, il ne s'agit pas de lui envoyer un courrier, mais il s'agit de le faire venir pour discuter avec lui des causes, des conséquences, expliquer, rassurer, accompagner. Mais vous savez, les meilleurs ambassadeurs de la vaccination, ce sont leurs collègues. Ce sont les blouses blanches qui ont été vaccinées depuis des mois, parfois depuis 6 mois, voire plus, et qui leur disent « Je vais bien, j'ai été vacciné, fais-toi vacciner, on a besoin de toi dans l'équipe, ne nous lâche pas ».
Alors justement, là aussi dans les EHPAD et pour les personnes à risque, on commence à injecter la troisième dose, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Vous maintenez l'intérêt de ce rappel ?
Je maintiens l'intérêt de ce rappel chez tout le public des Français qui est appelé à se faire vacciner contre la grippe. Les 65 ans et plus, et les personnes qui sont atteintes de comorbidités, de maladies. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, quand on a plus de 65 ans, on a un système immunitaire, une mémoire immunitaire qui est plus fragile et qui dure un peu moins longtemps. Et donc, au-delà de 6 mois, ce qu'on sait, c'est que l'immunité, elle n'est plus forcément aussi capable de reconnaître le virus et de l'empêcher de rentrer. Et la troisième dose, c'est ce qui consiste à dire au système immunitaire, souviens-toi, ça c'est le coronavirus, s'il vient, tu le butes. Pardon pour l'expression, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, cette troisième dose, elle est vraiment nécessaire. Et j'invite les Françaises et les Français, ils vont recevoir d'ailleurs des convocations de l'assurance maladie, en tout cas des invitations à venir se faire vacciner. Ça monte, mais ça pourrait monter plus vite. Donc, j'invite vraiment chacun, si vous êtes à 6 mois de votre deuxième injection, que vous êtes concerné par le rappel vaccinal, à prendre rendez-vous en centre chez votre médecin ou votre pharmacien.
Mais il ne vous a pas échappé que l'Organisation mondiale de la santé pense qu'aujourd'hui il serait plus important d'utiliser ces vaccins pour les pays pauvres et déshérités. Que répondez-vous à cela ?
Je réponds qu'on fait les deux, Yves
Calvi. En évoquant, évidemment, en plus, je dirais, le retour de variants potentiels.
Mais on fait les deux. C'est tout à fait c'est une nécessité absolue de vacciner la planète. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Que fait la France ? La France, on donne l'équivalent d'une dose par Français, quasiment. C'est-à-dire qu'on est l'un des pays...
Les plus généreux.
En tout cas, l'un des pays qui est le plus attentif à la situation de la vaccination dans les pays pauvres qui n'ont pas eu, comme l'Union européenne, la possibilité de passer des contrats avec les laboratoires. Hier, Ursula von der Leyen, pour l'Union européenne, a annoncé 200 millions de doses cédées par l'Europe aux pays pauvres. Le président de la République s'est investi très tôt dans la campagne vaccinale pour faire en sorte qu'on assure la vaccination des populations les plus pauvres et qui n'ont pas accès au vaccin dans les mêmes conditions que nous. Nous faisons les deux, ce n'est pas opposé les uns par rapport aux autres. Nous avons suffisamment aujourd'hui de vaccins et de capacités de vaccination pour faire cette troisième dose chez les Français fragiles et assurer la vaccination du monde.
Agnès Buzyn, ministre de la Santé, au début de la crise sanitaire, a été mise en examen. Vous êtes vous-même visée par plusieurs plaintes. Est-ce que vous redoutez une mise en examen ?
D'abord, vous dire que j'ai participé.
Est-ce que vous y êtes préparé, j'ai même envie de vous dire, psychologiquement.
J'ai participé à de nombreuses évaluations, et c'est normal, l'évaluation en démocratie. Des commissions d'enquête parlementaires, j'y ai passé des heures, j'ai vu comme vous les très nombreux commentaires sur la gestion de crise depuis plus d'un an et demi, sur les réseaux sociaux, des experts, les contre-experts, les éditorialistes, parfois d'ailleurs au détriment de l'intérêt général, avec le mouvement anti-vax qui a pu poser des difficultés. Vous m'interrogez sur la justice, vous connaissez très bien la réponse, Yves Calvi, dans ce genre de situation. On ne commente pas une affaire de justice. Mais si vous m'interrogez sur ma situation personnelle, je suis totalement mobilisé et concentré à ma tâche. Depuis le premier jour, je n'ai jamais pris la moindre décision dont j'ai à rougir. J'agis dans l'intérêt des Français, pour la sécurité des Français, et je continuerai à le faire avec ou sans la Cour de justice.
Comment le gouvernement vit cette mise en examen potentielle et réelle en ce qui concerne Agnès Buzyn ? On n'a eu aucune réaction pour l'instant. Alors vous nous dites ce matin, je ne commande pas des décisions de justice, qui est la formule habituelle. Vous comprenez qu'on attend au minimum, je ne sais pas, peut-être même tout simplement une solidarité vis-à-vis d'Agnès Buzyn.
Mais moi, je n'ai jamais caché que quand je suis arrivé dans le bureau d'Agnès Buzyn, qui est ensuite devenu le mien, ce 17 février 2020, et qu'il n'y avait alors quasiment pas de virus en circulation, et que l'épidémie était encore une épidémie chinoise, quand je suis arrivé dans ce ministère, j'ai trouvé un dispositif de veille sanitaire, de réaction à la crise sanitaire qui avait été mis en action. J'ai vu des décisions qui avaient été anticipées et en aucun cas je n'ai trouvé un ministère qu'il fallait totalement construire et bâtir pour faire face à l'éventualité, à l'époque, d'une crise sanitaire d'ampleur. Donc je le dis, moi j'ai été très fier de succéder à Agnès Buzyn.
Vous lui apportez votre soutien amical ? Ça se dit simplement.
Je lui ai déjà apporté, je continuerai de lui apporter.
Nous sommes à la veille du conseil d'administration qui va statuer sur l'avenir du professeur Raoult. Il est clair pour vous qu'il doit quitter ses fonctions et partir à la retraite ?
Clair pour moi que ce n'est pas une décision ministérielle, que c'est une décision purement locale de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, qui est un institut à gouvernance publique-privée avec un conseil d'administration, et ses membres auront à se prononcer.
On a commencé avec des bonnes nouvelles, on va terminer avec un sourire. Vous avez pris l'ascenseur d'RTL pour venir en studio. Que vous inspire cette campagne publicitaire qui nous entoure, Revivre Ensemble, qui a, je tiens à le dire, un certain succès, mais qui a peut-être pu vous surprendre vous aussi.
Je m'intéresse plus au logo qu'à la photo. Et le Revivre Ensemble, et je pense...
Vous êtes aux côtés de Didier Raoult et vous souriez tous les deux,
en regardant dans la même direction. Figurez-vous que je l'ai découverte parce que j'ai reçu quelques textos le matin où elle est sortie. Je n'avais pas été averti en amont. Je l'ai reçu en photo. Et puis il m'arrive de traverser quand même Paris, voir Grenoble et de la voir sur les panneaux de bus. Revivre Ensemble. C'est le symbole.
C'est un beau slogan,
c'est l'un des, le symbole n'est pas la photo et pas les gens qui y sont. Le symbole pour moi, c'est les gens qui y sont. Pour moi, le symbole, c'est le logo. Revivre Ensemble. Oui. Mais en même temps, on n'a pas cessé de vivre ensemble. Ce que je garde comme image de ces 18 mois, c'est qu'on a été costauds, quoi. C'est pas nous deux, les Français, on a été costauds. Le confinement, les couvre-feux. Beaucoup pensaient que la société allait se déliter, qu'elle allait éclater, que les gens allaient rentrer en conflit les uns contre les autres.
On a des antivax qui manifestent toutes les semaines.
Certains parlaient de risque de guerre civile. J'entendais d'ailleurs, pardon, ça n'a rien à voir, mais j'entendais Xavier Bertrand faire ses propositions sur la sécurité, dire qu'il y a un risque de guerre civile. Enfin, à chaque fois qu'on veut faire peur, on dit que les Français ne sont pas courageux, qu'ils vont tout d'un coup se mettre les uns sur la tête les uns les autres. Non, en réalité, le peuple français, il a non seulement eu une capacité d'appréhension, de compréhension du virus, de ses mécanismes, des manières de lutter contre, un respect des gestes barrières, un respect des règles qui n'étaient pas simples et qui étaient inédites, qui a été absolument phénoménal. Donc, revivre ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va se rapprocher les uns des autres. Malgré la distanciation sociale, on était proches les uns des autres. On l'est resté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est revivre le plus normalement possible. Et peut-être même vivre sans le virus. C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, je crois qu'on est tous assez motivés.
Revivons ensemble. Et dans l'harmonie, ce sera bien entendu ce que nous souhaitons. Merci, monsieur le ministre, d'être venu nous apporter des informations ce matin sur l'antenne d'RTL. La météo de Louis Baudin, météo à 7 jours. Oui. Louis, nous vous écoutons.
Et très compliqué à faire en ce moment. Avec tout de même aujourd'hui le début d'une amélioration, hein, ça va aller mieux près de la Méditerranée, notamment autour du golfe du Lion, avec le retour d'un peu d'éclaircies. Ailleurs, mais encore quelques averses orageuses, hein, notamment près des reliefs, ça s'améliore dans le nord. Demain, enfin, une belle accalmie pour tout le monde, notamment près de la Méditerranée, où enfin on va retrouver du grand soleil. Le tout avec des températures à peu près de saison, hein, 20-23 degrés dans la moitié nord, un peu plus de 25 degrés dans le sud. Et puis pour ce week-end, on repart de nouveau dans de l'instabilité. Alors principalement quand même au sud de la Loire, c'est là où a priori les nuages devraient être un peu plus menaçants avec quelques averses encore orageuses, plus de soleil dans le nord. Dimanche, ça devrait circuler dans la plupart des régions, je parle des nuages, avec là aussi quelques averses. Mais bon, il y aura peut-être quand même des petites périodes d'accalmie assez longues. Voilà, pour essayer de trouver quelques bonnes nouvelles. Ça continue en début de semaine prochaine avec donc encore du temps instable, peut-être de nouveau des averses orageuses dans le sud. Et puis à partir de mercredi, on pourrait connaître une amélioration un peu plus durable quand même. Vous voyez que c'est encore un petit peu loin. Donc je réserve ce diagnostic pour la journée de demain.
Merci.
C'est un peu plus précis.
Merci cher Louis. Dans un instant, on retrouve Isabelle Choquet.
Passez une bonne journée sur RTL. RTL, revivre ensemble.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
On retrouve ce matin Isabelle Choquet, bien entendu, et vous nous ramenez plus de 20 ans en arrière, Isabelle, dans l'Afghanistan des talibans.
Avec cet article de novembre 2001 dans Libération, une plongée dans les archives du ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice, terrifiant ministère de la police religieuse qui vient de ressusciter à Kaboul. Libé avait mis la main sur un cahier, un grand cahier bleu avec cette mention calligraphiée, organe pour la commanderie du bien et la poursuite du mal, registre des manquements et de leurs corrections. Tout y est consigné. Et toutes les punitions infligées au nom de Dieu le miséricordieux. Un tableau saisissant de la vie quotidienne des Afghans. On y trouve des femmes fouettées parce qu'elles n'ont pas porté un voile assez couvrant ou parce qu'elles ont hélé un taxi dans la rue sans être accompagnées d'un homme. Des jeunes tabassés parce qu'ils ont osé se promener tête nue. À l'époque, on croisait dans Kaboul des patrouilles anturbanées qui faisaient la chasse aux récalcitrants armés de chaloques, de longues lanières de cuir tressé. Première cible, les barbes trop courtes et les cheveux trop longs. Pas de chance pour Omayoun qui n'a jamais été très poilu. Les talibans nous caressaient la joue pour sentir si nous étions rasés ou si notre barbe était à sa taille naturelle, dit-il. À la longueur réglementaire, un toupet devait dépasser du point fermé. Une barbe rasée de trop près coûtait 15 jours dans une prison crasseuse, sans paillasse ni couverture, avec un imam qui vous serine le Coran à longueur de journée. Une lecture rigoriste, bien sûr celle du Mollah Omar. Mieux valait ne pas s'endormir. À la fin, il y avait un examen et en cas d'échec, eh bien on en reprenait pour autant. Même les bébés devaient être irréprochables. La vertu n'attend pas le nombre des années. Lorsque mon fils est né, raconte Tori Allan, je suis allée le faire enregistrer à l'état civil. Les talibans ont exigé qu'il soit coiffé d'un bonnet sur sa photo d'identité avant de l'inscrire sur mon livret de famille. Surveillance étroite aussi sur l'armée et surveillance encore plus grande sur les mosquées. La formation des mollahs a été confiée au ministère de la Vertu. Une fatwa rendait obligatoire les 5 prières quotidiennes à la mosquée sous peine de bastonnade publique. Les talibans exigeaient aussi des imams qu'ils dressent une liste de leurs fidèles. Un officier du ministère faisait l'appel après la prière et si un vol était commis dans le quartier pendant l'office, eh bien les absents étaient automatiquement considérés comme coupables. Ils risquaient alors l'amputation des membres, une main, un pied ou les deux, fonction de la gravité du délit. Dans ces conditions, pas grand monde pour se rebeller. Le mollah Abdel Raouf est une exception. Il a refusé de dresser la liste de ses fidèles. La prière est un acte libre, dit-il, et chacun peut prier chez soi. Notre rôle n'est pas de dénoncer les gens. Et il ajoute, mais ce qui les agaçait le plus, c'était le nombre de fidèles qui venait écouter mes prêches le vendredi. Son corps porte encore les traces de la torture, des ongles et des morceaux de chair arrachés à la tenaille. « Je n'allais pas céder devant les talibans », dit-il avec fierté. Il n'a pas cédé, mais il a été expulsé de sa mosquée, la dernière qui résistait. Au nom d'Allah et de la répression du vice, reportage dans Libération en 2001. Reportage qui sonne malheureusement comme le journal de demain.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. On se retrouve demain matin
demain.
Pour l'information avec vous et pour ce rendez-vous quotidien. Dans un instant, Laurent Gérard est avec nous.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Monsieur Sarkozy, pourquoi sifflez-vous?
Ben je me promène en sifflotant. Oui. Hein. C'est bien les promenades 300 pages, 29 euros en précommande chez votre libraire.
Ah oui, je vois. Vous venez faire la promotion de votre prochain livre, intitulé en effet « Promenade », qui sort le 22 septembre. Un ouvrage où vous ne parlez pas du tout politique, mais où vous racontez votre amour pour la littérature. Écoutez, c'est étonnant.
Attendez, je vois pas ce qu'il y a d'étonnant, comme quoi que je suis un passionné de littérature. Je suis un grand lecteur. La preuve, je viens de finir un truc de plus de 3000 pages.
3000 pages ? Mais c'était quoi ?
Le rapport du juge comme quoi qui veut m'envoyer en prison. Non, je plaisante. J'aime la littérature, mademoiselle Jade.
Très bien.
Dans Promenade, 300 pages, 29 euros en précommande à la FNAC.
Oui.
Je dis tout le bien que je pense d'Émile Zola.
Oui.
J'ai lu tous ces bourgeons en pull jacquard.
Ah non, non. La série de romans d'Émile Zola s'intitule « Les Rougon Macquart ».
Ah bon, on va pas chipoter, hein. Oui, je les ai tous lus. Germinal, L'Assommoir, Au bonheur des dames. Oui. J'ai même lu celui qui a un nom de serviette, là. Comment il s'appelle déjà ?
Un nom de serviette ?
Si, c'est pas Always, c'est pas Vanilla Pocket. Oui. Ah oui, Nana. J'ai lu aussi Nana.
C'est bien, Nana. Oui, c'est bien. Dans votre livre, vous parlez aussi de votre passion pour la poésie et notamment Rimbaud.
Rimbaud, oui. Mm-hmm. Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3. J'ai tout lu les Rimbauds. Puisque je vous dis que comme quoi que je suis un grand lecteur. La preuve, j'ai même lu Promenade, 300 pages, 29 euros en précommande chez Cultura. Je sais pas qui c'est qui l'a écrit, mais c'est vachement bien.
Cet automne, à la Philharmonie de Paris, se tient l'exposition événement Putain d'Expo, consacrée à Renaud et inaugurée officiellement par le chanteur la semaine dernière. Bonjour Renaud.
Bonjour mademoiselle Orangeade, bonjour monsieur Vichy.
Voilà, d'accord. Oui, c'est vrai que vous êtes définitivement sobre. Hein. Vous avez donc enfin inauguré la magnifique exposition qui vous est consacrée et qui avait été suspendue pour cause de Covid.
Bah oui, on n'avait pas pu la faire à cause du coronavirus.
Oui.
Connard de virus. Salaud de virus.
Oui.
Coronavirus.
D'accord, merci, on s'en souvient. Mais on préfère toutes les merveilles que vous avez écrites avant. En tout cas, la grande nouvelle, c'est que vous êtes en train d'enregistrer un nouvel album.
Bah, disons que côté vocal, tout baigne.
Oui.
J'ai un peu beaucoup arrêté la clope, surtout quand je prends ma douche.
Ah, c'est mieux.
Puis j'ai une vapoteuse à l'anis.
Oui.
Du coup, ma voix s'est un petit peu beaucoup infiniment éclaircie.
Mais c'est vrai, c'est frappant. Ce sera donc un album de reprise, c'est bien ça ?
Oui, il y aura Françoise Hardy, Serge Reggiani, Jean Ferrat, Jacques Chirac, Georges Moustaki. Et pour nous désaltérer, à la fin, j'ai mis Hugo Frey.
Fort du succès de son album intitulé « Mesdames », le slammeur Grand Corps Malade en publie cette semaine une réédition de luxe avec de nouvelles voix invitées. Bonjour Grand Corps.
Bonjour à toi mademoiselle Jade. Oui. Tu es une bonne fille, pas une pintade.
Oui, merci.
Un jour, c'est sûr, avec ta voix, tu feras un duo avec moi.
Ah ben, volontiers Grand Corps. Les duos féminins avec vous, c'est d'ailleurs le principe de votre album concept. Mesdames, qui s'est beaucoup vendu, n'est-ce pas ?
C'est un album de 10 chansons. Dites d'une voix grave, une voix de basson.
Oui.
C'est des dialogues avec des femmes. Des meufs super, c'est tout en slam. Des trucs puissants, pas des magots. Écrit pour faire pleurer Margot. J'ai composé toutes les musiques sur mon bon tempi en plastique.
C'est vrai que votre point fort, ce sont plutôt les paroles. Il y a de très beaux passages qui s'adressent aux femmes.
Pour vous, mesdames, c'est mon hommage. Vous qui faites tout le temps le ménage. Vous êtes plus belles et bien plus classe que nous les hommes qui sommes salaces.
Eh bien, merci au nom des femmes, Grand Corps. Et donc, pour cette réédition de luxe, vous avez invité de nouvelles chanteuses.
Il y a Louane et Amuse-Bouche. Puis il y a Suzanne, Camille Lelouch. Mais les emmerdeuses sont pas là, Angèle Isolde ou Jordana. Et nous les brise menu. Moi, ces gonzesses-là, j'en ai plein le...
Oui, merci Grand Corps. Merci, Grand Corps, et bonne convalescence. Hein. Que de musique ce matin. Je crois que nous avons la visite de notre ami André Manoukian.
Salut les amis. Mi bémol. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mangé sur mon bon temps. Ah non, c'est pas de pi. Bon,
non,
mon piano, il est tout désaccordé. C'est comme si les touches étaient collées. À mon avis, c'est Cyril Lignac qui a fait sa recette dessus.
Bon ben, voilà, ça va s'arranger. Dites-nous plutôt ce qui vous amène, André.
Alors, je suis venu te raconter l'histoire secrète d'une chanson. Une chanson d'un mec que j'ai découvert dans La Nouvelle Star.
Mais qui donc ?
C'est Julien Doré, dont le vrai nom est Julien Denotte.
Ah bon?
Oui.
Combien?
Julien, oui. Julien Denotte. Do, 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 ré, do, ré, ré. Julien Doré.
Ah, ça y est, j'ai compris.
C'est pour ça que je l'aime bien. Julien Denotte est devenu Julien
Doré. Voilà. Et oui, évidemment. Et de quelle chanson de Julien Denotte dit Doré êtes-vous venu nous raconter l'histoire secrète?
Eh bien, c'est sa chanson. Sa chanson
perturbée.
Coco Caline. Tu la connais?
Ah, bah bien sûr. Sur la plage, Coco Caline. Sur la plage, Coco. Mais je la connais.
T'as une voix hyper puissante. Ouais. Ton vibrato me fait penser à mon lave-linge quand je suis sur le programme Essorage. C'est vachement clair.
Merci André.
C'est un beau compliment.
Pour ce compliment. Oui. Alors, quelle est l'histoire de cette chanson?
En fait, Julien, il s'est inspiré d'un militant communiste des années 80 qui était délégué syndical chez Michou.
Ah bon?
Il était très sensible, très doux, tu vois. Comme il était communiste, sensible et doux, tout le monde l'appelait Coco Caline.
Et pourquoi Julien Doré parle-t-il de plage dans cette chanson alors?
Parce que Coco Caline, quand il avait fini de faire la grève chez Michou,
oui,
il allait au Banana Café avec Georges Marchais en Réavoine. Ah non, mais
non,
c'est vrai qu'il n'y a pas de nid.
Non.
Et Coco Caline, il prenait toujours des mojitos.
Oui.
Ah ben non, il n'y a pas de
tout non plus. Non. Non.
Et dans son verre, le serveur lui mettait un petit parasol. Sol, 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 sol. Ah ben là, ça marche.
Ah oui, c'est bien.
Du coup, il y avait une ambiance plage. C'est pour ça que Julien Doré, Doré, Ré, Yes, Rémi, c'était TMD. Il a écrit sur la plage Coco Caline.
Voilà.
Sur la plage Coco Caline.
Oui, d'accord. Vous êtes sûr de la véracité de cette histoire?
Non, pas du tout. Mais tu vois, ça me fait penser à cette phrase de Platon qui disait les hommes ne veulent pas ce qu'ils font, mais en vue de ce quoi ils font ce qu'ils font. Mais en vue de ce quoi ils font
ce
qu'ils font.
Ce qui signifie.
Oui, Platon.
Je sais pas, mais c'est super intéressant.
On a passé un excellent moment.
On a chanté ce matin.
Alors, plus que jamais.
Voilà.
Oui, mais non.
Et
saluer messieurs Fioretto, Rose et De Verdière, qui sont vos complices
bien
en
évidemment.
Écriture. Nous sommes d'accord.
De Verdière,
De Verdière.
On n'a rien avec Mibécard, et là, ma faute. On vous retrouve sur le site rtl.fr et on se retrouve demain matin.
Voilà.
Merci à toute l'équipe.
À demain.
Merci, à demain.
Cyril, vous allez nous parler gibier dans un instant.
Allez.
C'est à la demande de Christina. Bon, enfin, on va vous expliquer ça dans quelques secondes. Merci d'écouter RTL. Excellente journée à tous. Je vous rappelle que Daniel Auteuil sera notre invité exceptionnel dans Laissez-vous tenter dans quelques instants à l'occasion de la sortie de son dernier disque.
RTL Matin. RTL Matin. Yves Calvi.
Christina a 29 ans. Elle vit dans les Ardennes et vous écrit « C'est l'anniversaire de mon père, cher Cyril. Il adore le gibier. Je t'avoue que je prends vraiment d'idées pour lui faire plaisir. Je te lance donc un SOS pour faire plaisir à mon père. Civet de serre, par exemple. Allez, allez-y. »
Alors,
je déteste ça.
Moi aussi. Bon. Alors en fait, en plus, notre grand réalisateur a fait le bruit de la chasse.
Oui.
Alors, c'est compliqué de cuisiner le gibier.
Oui.
Mais je vais donner une recette à base de chevreuil. Voilà, allons-y.
Allez,
donc un chevreuil coupé en tronçons, on le saisit bien avec de l'huile et un peu de beurre pour le caraméliser. Mm-hmm. Ensuite, on met une petite couche. On prend du café que l'on pile. En fait,
le gibier, ça,
ouais, que l'on pile, on les met dans la sauteuse à couvert pour bien le faire un peu brûler, c'est-à-dire faire sortir le goût du café. Mm-hmm. C'est vrai que le gibier avec le café, ça marche bien.
D'accord.
Ensuite, on termine avec un peu comme une sauce poivrade, c'est-à-dire qu'on met un peu de jus, on déglace avec un peu d'alcool, on fait réduire et on a une sauce au café. Et on met quelques légumes. Alors, moi, j'aime bien les petits gratins d'oignons, un peu comme un gratin dauphinois, c'est-à-dire des petits oignons, du lait, de la crème, et on le cuit doucement. Et c'est vrai que le gibier, ça marche bien avec ces petits gratins d'oignons. Voilà.
Voilà.
J'ai donné une petite recette, mais c'est vrai que ce n'est pas ma grande passion.
Mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez donné la recette, mission accomplie. Je vous remercie et je vous dis à demain. Je ne sais pas si nous saluons l'arrivée de Daniel Auteuil dans ce studio.
Si, j'ai bien l'impression.
Voilà, un grand coup de, bien entendu, de venaison. On va déjà faire un petit point sur l'actualité et on vous retrouve ensuite, si vous le voulez bien. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tansa.
Un chiffre d'abord, 3000, c'est le nombre de suspensions de personnel soignant prononcées hier au premier jour de l'obligation vaccinale. Chiffre fourni ce matin par Olivier Véran, qui était l'invité de RTL, à mettre en relation avec le nombre total de soignants, plus de 2,5 millions. Les services dans les EHPAD et dans les hôpitaux ont fonctionné normalement, a précisé le ministre de la Santé. La colère ce matin de la France qui ne mâche pas ses mots après la décision cette nuit de l'Australie de rompre le contrat sur la vente de 12 sous-marins. Plus de 30 milliards d'euros de perdus. L'Australie a finalement opté pour la technologie américaine. C'est un coup dans le dos, estime Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui pointe également la responsabilité de Joe Biden, qui a pris, je cite, une décision brutale à la Trump. Quatre touristes dans l'espace, en ce moment même, en train de tourner en orbite autour de la Terre, à bord de leur vaisseau SpaceX. Le voyage va durer 3 jours sans l'assistance d'un astronaute professionnel. C'est une première historique. Et puis le football, une équipe sur le papier ne fait pas une victoire sur le terrain. La première soir, Paris, malgré son trio d'attaquants stars, a été tenu en échec 1-1 à Bruges. Ce soir, Lyon, Monaco, Marseille et Rennes font à leur tour leur entrée sur la scène européenne. Merci.